One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Un homme avec qui tu vas faire un premier date et qui va te demander de faire 50-50 au premier date, pour moi, c'est rédhibitoire. Je pourrais pas être avec un homme qui a un job 9-to-5 et qui fait rien pour sortir de cette situation. Il n'y a pas de mal à vouloir un mec qui gagne bien sa vie. Je vois pas où est le mal, en fait. Parfois, je me dis, waouh, heureusement que je suis pas mariée. Je dis souvent, tu t'imagines si en Algérie, avec ce qu'on avait, moi je suis d'origine algérienne, l'Algérie, ça aurait pu être tellement de choses. C'est quelque chose qu'on découvre ici, c'est que, en fait, les gens voient d'autres personnes. Il n'y a pas d'exclusivité.
C'est surprenant.
Tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, même, tu sais, le fait de choisir mes interviews, avec qui je fais les interviews, les projets, les partenariats, tout ce que je fais, c'est réfléchi.
Et aujourd'hui, est-ce que ta vie ressemble à ce que tu avais imaginé il y a quelques années ? Bonjour Ravel.
Bonjour Manel.
Je suis ravie de t'accueillir une deuxième fois dans ce podcast. Ici, chez toi, à Dubaï, cette fois-ci, c'est moi qui suis venue à toi. Mais je te reçois quand même dans un superbe endroit, dans notre suite ici au Hyatt Centric Jumeirah, qui est notre partenaire pour cette série. Alors toi, Amel, tu fais beaucoup de choses. Tu es entrepreneur, spécialisée en marketing, et tu es surtout très présente sur les réseaux sociaux, puisque tu partages un petit peu ta vie d'expatriée ici à Dubaï. D'ailleurs, il me semble même que tu es devenue, je dirais, l'une des références francophones vraiment de Dubaï. Et je sais que beaucoup de choses ont changé et ont évolué pour toi depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux me dire quelle est la chose la plus inattendue qui te soit arrivée en 2023 ?
La chose la plus inattendue qui me soit arrivée en 2023, donc inattendue, donc quelque chose
auquel... Inattendue, ouais.
Ça, autant dans le personnel que le professionnel ?
Tout à fait.
Bon, bah allez, on va commencer direct dans le personnel. Une rupture amoureuse complètement inattendue et qui m'a fait me remettre en question, mais qui a été... un blessing in disguise, comme on dit en anglais, un mal pour un bien. Donc c'était inattendu, mais c'est au final la meilleure chose qui me soit arrivée en 2023.
C'est vrai. Qu'est-ce que ça t'a appris ?
Bah ça m'a appris que déjà rien n'est acquis dans la vie. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que encore une fois, je sais que bon, je comptais pas partir dans le personnel aujourd'hui, mais bon, on commence comme ça. T'as la trentaine comme moi, tu sais que quand on est trentenaire, il y a la pression sociale, se marier, faire des enfants, etc. Et plus tu avances dans le temps, plus tu as cette pression. Encore plus, je pense, aujourd'hui, quand t'es sur les réseaux sociaux, parce que on va constamment te le rappeler. Et voilà, cette rupture m'a rappelé que, bah, au final, encore une fois, la vie, elle ne tient pas qu'à ça, elle ne tient pas qu'à ta situation amoureuse. Il y a énormément de manières dont tu... peut t'épanouir. Il n'y a pas que avec la vie amoureuse. Et ça me l'a rappelé. Et au final, en fait, quand je me suis à nouveau retrouvée célibataire à 35 ans, j'ai fait des choses que j'avais oublié de faire quand j'étais en couple. Donc, c'est-à-dire revoyager, être ouverte aux rencontres, être ouverte à essayer des nouvelles choses. J'ai été encore plus productive avec le travail. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et en fait, grâce à tout ça, j'ai pu lancer ma marque comme il se doit fin 2023. Et là, 2024, c'est une nouvelle vie pour moi. J'ai déménagé à Downtown, donc je vivais à la Marina avant.
Il y a beaucoup de changements.
Ouais, il y a eu énormément de changements. Énormément de changements, surtout c'est pour ce début d'année. Donc, j'ai déménagé. Ma sœur s'est mariée aussi.
Ouais, félicitations.
Ma sœur s'est mariée. Et donc là, je vis toute seule à Downtown. On a lancé notre marque avec donc ma sœur Yasmine King Coco. Donc ouais, plein de changements et plein de belles choses à venir.
Mais c'est marrant parce que c'est vrai, on commence dès le départ avec ce sujet. En réalité, j'avais déjà préparé quelques questions sur cette thématique parce que je sais que t'es vachement ouverte sur les réseaux sociaux, tu en parles vraiment librement et je trouve que tu donnes une perception en tout cas de la réalité avec beaucoup d'authenticité, de sincérité. Je suis convaincue que ça aide énormément de jeunes femmes justement qui sont peut-être dans la même situation que toi. Je sais aussi que de nos jours, c'est de plus en plus difficile de trouver quelqu'un qui nous correspond. C'est pas moi qui le dis, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Selon toi, Amel, avec le recul, et notamment avec cette rupture récente, quels sont les sujets, les thématiques qu'il faut aborder dans une relation au départ pour éviter justement qu'on soit déçu par la suite?
Je pense que les choses... Alors, Dubaï, c'est particulier. Le dating à Dubaï, je pense que c'est un peu différent de la France. On est plutôt sur le modèle anglo-saxon. Okay. Je sais pas si t'en as déjà entendu, on voit un peu dans les films américains, tu sais, quand t'as deux personnes qui se rencontrent, au début, elles vont se dater, mais en fait, t'as plusieurs phases. T'as la phase de dating, t'as la phase où, ok, on va s'appeler boyfriend, girlfriend, t'as la phase où, ok, maintenant on est vraiment sérieux, on va avoir des projets ensemble. Tu vois, t'as plusieurs étapes. Ce qu'on n'a pas forcément en France, parce qu'en France, c'est plutôt implicite. Si tu commences à voir quelqu'un régulièrement, sérieusement, vous êtes ensemble et vous allez avoir des projets ensemble. Aux États-Unis, en Angleterre et ici à Dubaï, ça marche pas vraiment comme ça.
D'accord.
C'est plutôt, on va se rencontrer, mais en fait, on voit d'autres personnes. On n'est pas focus.
C'est pas une relation exclusive.
Non, ça arrive.
D'accord.
Ça, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux sociaux. Je devrais faire une vidéo sur plus spécifique sur le dating à Dubaï.
C'est quelque chose que t'as découvert comme ça sur le tas?
Ouais, c'est quelque chose qu'on découvre ici. C'est que en fait, les gens voient d'autres personnes.
C'est surprenant.
Ouais, il y a pas d'exclusivité.
Pour nous, Français, avec notre culture en tout cas.
Exactement, il y a pas d'exclusivité. En fait, si tu n'exprimes pas que tu veux une exclusivité, et ça sous-entend que tu vois d'autres personnes. Et donc, moi, j'ai des copines qui ont eu des petites surprises comme ça. J'avais une copine qui voyait, qui datait un mec. Et elle, pour elle, c'était logique qu'il soit exclusif. Et en fait, elle a découvert qu'il voyait une autre fille. Donc, elle l'a mis devant le fait accompli et lui a dit « Non, mais on n'est pas exclusif, en fait. Tu m'as jamais dit qu'on était exclusif. »
Ah, d'accord.
Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on commence à dater à Dubaï.
Et ça t'est arrivé, toi? C'était ton cas?
Non, moi par contre, alors c'est ça, voilà, dans les choses que j'allais te dire, quand tu commences à dater à Dubaï, il faut mettre les choses au clair dès le début, annoncer dès le début ce que tu veux. Est-ce que tu veux une relation sérieuse? Est-ce que tu veux juste, dater sans lendemain, etc. Il faut l'annoncer dès le début, parce que si tu n'annonces pas, tu vas avoir des mauvaises surprises.
D'accord. Mais toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a des questions que tu aurais voulu poser plus tôt, des sujets que tu aurais aimé aborder pour éviter, en fait, finalement, la rupture qui s'est produite par la suite?
Moi, ça a été clair dès le début avec mon ex. Moi, j'avais dit tout de suite que c'était du sérieux pour construire, etc. Ça l'était pour lui aussi, vu qu'on était un couple public sur les réseaux sociaux. Enfin, il connaissait ma famille, je connaissais sa famille. Mais quand est arrivé le moment de vraiment concrétiser les choses, on va dire qu'on n'a pas été d'accord sur ce qu'on voulait vraiment. Et peut-être que c'était quelque chose qu'on aurait pu éviter, c'est vrai. Mais tu sais, tu connais les débuts des relations, tu te voiles la face. Il y a les red flags, tu les vois, mais tu choisis de les ignorer. Et c'est des leçons. Enfin, c'est pas quelque chose que je regrette, parce qu'on m'a dit, mais tu regrettes pas de t'être affichée sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est dur, hein, de vivre une rupture amoureuse. Déjà, tu vis ta rupture amoureuse, et en plus, tu dois la vivre avec les gens sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est pas une expérience que je recommande.
Pas toujours bienveillant, en plus.
Ouais, exactement. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une communauté qui est très bienveillante. Comme j'ai été honnête, en fait. Moi, j'avais des amis qui m'avaient dit « Non, mais tu devrais même pas dire que tu t'es séparée. Juste arrête de le poster. » Puis les gens, ils vont passer à autre chose. Et je leur ai dit « Mais non, ça marche pas comme ça. » J'ai choisi de m'exposer. J'ai choisi de le montrer. J'ai même fait des vidéos avec lui. Je peux pas du jour au lendemain faire comme si de rien n'était et hop, il disparaît et à la poubelle. Ça marche pas comme ça. Enfin, pour moi, quand t'es créateur de contenu, quand t'as de l'influence, t'as une responsabilité envers ta communauté. Donc, si... je l'ai présenté à ma communauté, et ben, je dois leur dire ce qui s'est passé, sans rentrer dans le détail, non plus. Enfin, je dois pas non plus rendre des comptes à ma communauté. Mais il y a un minimum, en fait. Pour moi, c'est une question de respect, tout simplement.
C'est vrai? D'accord. Ouais, c'est étonnant pour quelqu'un comme moi qui est très private, hein.
Ouais.
Et du coup, c'est intéressant d'avoir ton retour. Je me demande, est-ce que finalement, avec le recul, tu regrettes quand même un petit peu d'avoir exposé ta vie privée, cette relation sur les réseaux sociaux. À refaire, est-ce que tu aurais fait la même chose?
Oui, je le referais parce qu'en fait, c'est une leçon.
Ouais.
En fait, c'est des choses que tu apprends. Moi, ce que j'ai appris en faisant ça, quand tu dis par exemple que toi, t'es private, etc. En fait, à partir du moment où tu es private et où tu ne dis pas les choses, les gens vont pas te poser de questions.
C'est vrai.
En fait, les gens vont te poser des questions sur les choses dont tu vas parler. Donc moi, forcément, j'ai exposé ma relation. Du jour au lendemain, on le voit plus sur mes stories. Ah, c'est normal que les gens se posent des questions. Même toi, quand tu suis des célébrités, je sais pas, moi, Jennifer Lopez, on la voit plus avec Ben Affleck. Tu vas te poser des questions. C'est normal, en fait.
Moi, personnellement, non, mais je comprends. Je vois l'idée.
Tu vois ce que je veux dire? Les gens vont commencer à se poser des questions. Donc c'est légitime, c'est normal que les gens se posent des questions s'ils n'apparaissent plus. Maintenant, ce que je remarque aussi, c'est que quand tu mets des limites aux gens, quand tu mets certaines barrières, comme là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été honnête, j'ai dit « Ok, on s'est séparés, voilà la raison, j'ai même fait une vidéo YouTube. » J'ai ensuite demandé à ma communauté « Bon, maintenant, vous savez la vérité, s'il vous plaît, on clôt le chapitre et vous arrêtez de me poser des questions. » Ils l'ont fait. En fait, je pense que voilà, c'est juste une question de mettre des barrières, des limites. Moi, ça me fait rire les gens qui exposent tout, absolument tout de leur vie, mais de A à Z, les disputes... les bons moments comme les mauvais moments et qui montrent tout et qui s'étonnent en fait ensuite que les gens posent tout le temps des questions. Mais c'est normal en fait, si tu choisis d'exposer ta vie et tous les dessous de ta vie, c'est comme une télé-réalité, c'est du voyeurisme, c'est normal, on est humain, c'est de la curiosité, c'est normal que les gens se posent des questions. Donc en fait, si tu veux pas que les gens te posent des questions, il faut mettre des limites, tout simplement.
Du coup, tu m'as dit que ça t'a appris beaucoup de choses, des grandes leçons. Quelle est la leçon la plus importante que tu retiens de cette expérience-là?
De m'être affichée, tu veux dire?
Ouais.
Bah, la leçon, c'est que si tu veux pas qu'on te pose de questions, et c'est pareil, il faut rester privé, en fait.
Et du coup, c'est ce que tu vas faire pour la suite?
Ouais, je pense que, ouais, maintenant je suis plus privée par rapport à ma vie privée. Je partage toujours certaines choses, les choses parce que je sais que si je partage quelque chose, je sais qu'on va me poser des questions. Donc ça, c'est une leçon que j'ai retenue. Donc les choses où je veux pas qu'on me pose de questions, ben j'en parle pas en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue.
Est-ce que construire une vie de famille, c'est un élément qui est important pour ton épanouissement personnel?
Bon, pour tourner cet épisode exceptionnel, il me fallait un lieu exceptionnel. C'est pour ça que j'ai choisi le Hyatt Centric Jumeirah, ici à Dubaï, qui nous accueille dans des conditions absolument incroyables. Vous le savez, hein, l'environnement, c'est quelque chose de très important pour moi. Je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Regardez la suite magnifique, la terrasse incroyable, la vue imprenable sur Dubaï, tout ça à deux pas de la mer. Sans parler des installations de l'hôtel, mais surtout de toute l'équipe qui est au petit soin depuis qu'on est arrivé, qui est vraiment super gentille, super attentionnée. Honnêtement, on a un service 5 étoiles et vous savez à quel point c'est super important pour moi. Donc je suis non seulement très heureuse, très honorée, mais surtout très fière de faire ce partenariat avec un si bel établissement qui est le Hyatt Centric Jumeirah. Si vous comptez vous aussi venir à Dubaï, eh bien n'hésitez pas à checker la barre de description, je vais vous mettre tous les détails. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus.
Est-ce que construire une vie de famille, c'est un élément qui est important pour ton épanouissement personnel?
Oui, ouais. je veux une famille un jour. Enfin, je voudrais, oui, bien sûr, avoir une famille, des enfants. C'est quelque chose, ouais, que je manifeste.
Comment, de quelle façon?
Bah, que je manifeste, c'est-à-dire, je le visualise. Je me visualise un jour avec des enfants, une famille. Ça, je le souhaite sincèrement.
C'est quelque chose qui est important pour toi, c'est un goal.
Alors, il y a important et important, dans le sens où pas à n'importe quel prix, parce que je connais des femmes qui ont cette pression de la trentaine et qui du coup veulent un enfant à tout prix et qui font les mauvais choix et qui vont choisir le mauvais papa, etc. Ça, c'est pas, enfin, si j'avais voulu faire ça, je l'aurais déjà fait en fait. Donc oui, je veux une famille, mais je la veux dans les bonnes conditions et pas n'importe comment. Je veux pas avoir des enfants non plus qui grandissent avec des parents divorcés, etc. Là, j'ai 36 ans, je pense que à mon stade aujourd'hui, j'ai dû éviter au moins 2 divorces grâce à cette stratégie.
Mais c'est bien, faut le voir comme ça.
Moi, je le vois comme ça. Donc oui, j'ai pas d'enfants, j'ai pas encore été mariée, mais ça veut aussi dire que statistiquement, j'ai évité au moins un divorce.
Je sais que t'es quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur ce que tu fais, notamment parce qu'après, t'écris tes vidéos, tu publies ça et tout. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que tu as pris le temps justement de te poser pour te dire, ok, quelles sont les erreurs que j'ai pu commettre par le passé dans les relations amoureuses que je ne referai plus par la suite? Tu as des leçons vraiment précises, des erreurs que tu as identifiées et qui vont t'aider à faire de meilleurs choix et prendre de meilleures décisions.
Oui, je pense qu'aujourd'hui... La première chose déjà que je fais, c'est d'exprimer tout de suite mon envie si je rencontre quelqu'un. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire dans une relation et surtout à Dubaï, c'est exprimer ton envie. Est-ce que tu veux quelque chose de sérieux? Est-ce que tu veux construire, avoir des projets, avoir une famille? Ça, c'est quelque chose qu'il faut assez vite exprimer, pas forcément dès le premier date, parce que bon, faut pas non plus que le mec part en courant. Mais même ça, ça me dérange pas de se dire...
Si t'as en courant, c'est que finalement...
Bah, ça peut... Enfin... Ça, c'est encore une fois, c'est le problème de Dubaï. C'est que j'ai l'impression que les hommes sont très focus sur leur carrière. Puis bon, ils sont quand même matures beaucoup plus tard que nous, les femmes. Et à Dubaï, il y a tellement de choix, en fait, pour eux. Il y a tellement de femmes, il y a tellement de possibilités qu'ils sont un peu... sont un peu coincés dans cette bulle dorée et ils pensent pas au futur en fait.
C'est vrai?
Ouais.
T'as vraiment identifié ça?
Ah oui,
parce que Dubaï c'est quand même un endroit où il y a des personnes qui viennent du monde entier. Là tu me parles de personnes qui sont originaires de Dubaï, des Émiratis ou des étrangers qui vivent à Dubaï?
Ah non, on parle des étrangers. Des étrangers.
D'accord.
Qui vivent à Dubaï.
Okay.
Ouais, quand je parle de Dubaï, je parle vraiment de toutes les communautés qui vivent ici. Et c'est quelque chose qui est vraiment... c'est un pattern, hein, c'est vraiment récurrent parce que pour nous, les femmes ici, le premier sujet de conversation, je pense, même avec les femmes mariées, moi, j'ai la moitié de mes copines qui sont mariées et la moitié de mes copines qui sont célibataires. Premier sujet de conversation, c'est le dating, les rencontres. Quand je vois mes copines mariées, alors Amel, est-ce que t'as rencontré quelqu'un? Vas-y, raconte-nous tes dates, etc. C'est vraiment le premier sujet de conversation.
Ouais. C'est une vraie préoccupation pour les femmes.
Ouais, c'est une vraie préoccupation. Et c'est aussi un sujet de divertissement, parce qu'il y a toujours des histoires drôles à raconter sur les dating. Ah, bah, il m'a invité ici, il a pas voulu payer, non, tu vois, c'est des choses qui nous font rire, etc. Et du coup, j'ai oublié la question de base que tu m'avais posée par rapport à ça.
C'était, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises par le passé, que tu as identifiées pour éviter justement que ça se reproduise à l'avenir?
Oui, donc c'est ça. La première chose, je pense que c'est vraiment exprimer
ouais.
ton envie et ne pas ignorer les red flags. Je pense que nous, les filles aussi, on a tendance à ignorer. On les voit, hein, les red flags, mais on va les ignorer. Je peux te donner des exemples.
Ouais, j'aimerais bien, ouais. Quels sont les red flags rédhibitoires pour toi?
Alors, bon, moi, j'en ai plusieurs, mais, par exemple, pour moi, un homme qui va t'inviter, enfin, avec qui tu vas faire un premier date et qui va te demander de faire 50-50 au premier date, pour moi, c'est rédhibitoire. Pour moi, surtout à Dubaï, c'est même pas un débat, en fait. C'est pas un débat qui devrait y avoir. Enfin, on parle du premier date. Hein. Après, bien sûr, quand t'es dans une relation, c'est différent. Mais le premier date, c'est une règle qui est tacite à Dubaï. l'homme doit inviter. Et du coup, moi j'ai une copine là en ce moment, elle date un mec et c'est un 50-50. On appelle ça les 50-50. Donc c'est un mec voilà qui va vraiment tout compter, tout partager, etc. Et ça la dérange. Et c'est normal que ça la dérange parce que même pour moi, quand t'es dans une relation, c'est même avec mes amis, avec même entre amis, on fait même pas 50-50. C'est moi je t'invite un jour, tu m'invites un jour. Il y a pas, on n'est pas là à faire les comptes. Et lui, il est comme ça avec elle, il est là, et ça la dérange. Et je lui dis, mais tu sais que ce sera toujours comme ça, en fait. C'est une question de personnalité. Et si il est comme ça, c'est qu'il a été éduqué comme ça et qu'il sera toujours comme ça. Et si ça te dérange maintenant, au tout début, ça ne fera que te déranger si vous continuez dans la relation. Donc,
Ouais, donc c'est vraiment d'observer déjà comment il se comporte avec toi, comment il va te traiter vraiment en tant que femme, et aussi peut-être la question de l'argent. C'est vrai que les gens se laissent souvent aveugler par leurs émotions, leurs sentiments au départ. Sauf qu'un mariage, en fait, c'est un contrat. Hein. C'est voilà, est-ce qu'on est d'accord sur les choses, on va dire les bases, tu vois, les valeurs vraiment fondamentales du couple. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui évitent ce genre de sujet parce que c'est des sujets qui sont assez profonds, assez deep, peut-être un peu difficiles à aborder. Parce qu'elles ont peur, tout simplement, soit de quitter la personne, ou voilà, de dire, bah, c'est pas bon, faut que je recommence, etc. Mais pour moi, c'est hyper important, en fait, de parler de sujets très sérieux, même si ça fait peur.
Ouais, je suis
là. Pour éviter une chose, perdre son temps.
C'est exactement ça.
Donc, c'est pour ça que je voulais savoir quels sont pour toi les sujets, peut-être, voilà, qu'aujourd'hui, tu abordes dès le départ, avec un homme, pour être sûr de ne pas perdre ton temps.
Bah, déjà, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est quoi ses projets? Est-ce qu'il a envie de fonder une famille, avoir des enfants? Parce que déjà pour moi, un homme qui ne veut pas avoir d'enfants, bah déjà pour moi ça c'est rédhibitoire, c'est même pas la peine en fait, parce qu'il y a des hommes qui ont déjà été mariés. Là on arrive dans la vague des divorces aussi, donc entre 35-45, donc les gens divorcent, ils ont déjà des enfants. Il y en a plein qui n'ont pas forcément envie de se remarier, de se prendre la tête, parce qu'ils ont déjà des enfants. Donc pour moi, un homme qui ne veut pas avoir d'enfants, ou qui ne veut pas en avoir, ça déjà, ce serait une perte de temps pour moi, déjà. Je pense aussi un homme... ouais, question de valeur aussi, la valeur du travail, quels sont ses projets. Moi, je suis une entrepreneur, donc j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui comprend ce que je fais, qui a aussi des projets.
Qui te soutient.
Qui me soutient, que je puisse soutenir. Donc ça, je pense que c'est aussi hyper, hyper important. Et mais principalement, ouais, je pense que c'est une question plutôt de... Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Est-ce qu'on a les mêmes projets? On n'est pas obligé d'avoir les mêmes objectifs. Lui, il peut, je sais pas, peut-être objectif de monter sa société à lui. Moi, j'ai mon objectif de développer ma marque. On n'a pas les mêmes objectifs, mais on se soutient mutuellement.
Avoir une sorte de projet de vie ensemble, une vision à long terme. C'est ça que je dis, en fait, le mariage, c'est un contrat.
Complètement.
Comme, je sais pas, un entrepreneur avec son client. Est-ce qu'on est d'accord, en fait, sur la vision, sur la direction qu'on va prendre ensemble? Et on met les émotions et les sentiments de côté. Parce que de toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on peut cultiver par la suite. Hein. Mais ouais, ça, c'est hyper important. Tu devrais faire peut-être une masterclass sur comment gérer les relations amoureuses. Je suis certaine que ça marcherait. Parce que tu sais quoi, Amel, je me suis toujours dit, il y a un truc qui manque. Je pense qu'il faudrait une sorte de formation à faire avant le mariage.
Mais j'ai jamais été mariée.
Oui, c'est vrai. Mais peut-être pour se préparer au mariage.
Bah, écoute, le jour où j'aurai trouvé mon mari, j'y penserai à faire une formation comment trouver son mari à Dubaï.
J'aimerais savoir quelle est pour toi la définition de l'homme idéal. Quels sont les critères, les valeurs qui sont hyper importantes chez un homme?
Les critères les plus importants. Je pense que pour moi, ben on en parlait juste avant, mais déjà la valeur du travail. Je pense que ça, c'est la première chose. J'ai besoin d'avoir un homme que j'admire, qui me tire vers le haut aussi. J'ai besoin d'avoir un homme, oui, voilà, qui a des projets, qui est ambitieux, qui est bosseur, etc. Je pense que ça, c'est la première chose. Je pourrais pas, par exemple, être avec un homme qui a un job 9-to-5 et qui déteste son boulot et qui fait rien pour sortir de cette situation.
Ouais.
Et j'en connais. Ouais. Eh ben ça, pour moi, c'est rédhibitoire.
Ça veut dire beaucoup sur son mindset.
C'est ça, en fait. C'est tu détestes ton job, mais en fait, t'as la flemme. Enfin, tu restes quand même dans une situation de confort. Tu veux pas sortir de ta zone de confort. Mais tu détestes quand même aller au boulot tous les jours. Mais tu t'en contentes. Ça, je peux pas.
Tu veux quelqu'un qui te tire vers le haut.
C'est ça.
Qui soit une inspiration, un modèle, une motivation pour toi.
Une motivation, c'est ça. Et je le fais déjà naturellement avec mon entourage, avec mes amis, en fait. Dans mon entourage, j'ai que des bosseurs. J'ai que des filles... indépendantes, carriéristes, vraiment qui ont des projets et qui font des choses, et moi ça me motive de voir ça, et on se tire toutes vers le haut. Donc en fait c'est pour ça que je pourrais pas être avec quelqu'un qui est fatigué de la vie en fait, et qui a qui a déjà abandonné. En fait ça je peux pas.
C'est super important. Ouais. Mais tu mets vraiment le point, le doigt sur un point très important qui est l'admiration. Et je pense que c'est des deux côtés. Dans un couple, l'homme a besoin d'admirer sa femme et la femme a besoin d'admirer l'homme. Et avec le temps, même dans des mariages, hein, les gens ont tendance à oublier ça et à se laisser aller. Mais bon, on peut travailler et cultiver ça au quotidien, évidemment. Mais ça, c'est hyper important, admirer l'autre. Admirer. Parce que quand tu regardes l'autre avec mépris, déni, je vois pas comment tu peux cultiver un tant soit peu de sentiments amoureux pour cette personne, franchement.
C'est exactement ça. Et je vois aussi des couples mariés. C'est ça en fait, tu vois que bah les femmes dénigrent leurs maris, les maris dénigrent leurs femmes. Je trouve ça tellement triste en fait, tellement triste et en fait même ça parfois je me dis waouh, heureusement que je suis pas mariée, parce que quand je vois les choses que vivent certains couples, je me dis waouh, heureusement j'ai évité ça jusqu'à maintenant. Parce que, ouais, je trouve que l'admiration, comme tu dis, c'est super, super important.
Bon, si j'ai bien compris, il faut qu'il soit gentleman, évidemment.
Évidemment.
Hard worker, donc hard quelqu'un worker. Voilà, qui travaille.
Quelqu'un qui bosse.
Qui bosse.
Après, je vois, parce que je connais, on va faire des petits montages, les clips sur les réseaux sociaux, et ça va se traduire par « michetonneuse, elle veut un mec qui a de l'argent ». Alors, quand je dis hard worker, ça ne veut pas forcément dire, parce que c'est ça, les gens vont dire « oui, ben en fait, ça veut dire que tu veux un mec qui a de l'argent ». Il n'y a pas de mal à vouloir un mec qui gagne bien sa vie. Je vois pas où est le mal, en fait.
On a tous des standards et on aspire tous à un certain mode de vie. J'estime que c'est tout à fait normal d'avoir des standards.
Exactement, en fait. C'est ce que je dis souvent. C'est que moi, je me suis construit une vie aujourd'hui dont je suis fière. Oui, je suis indépendante. Oui, je travaille. Oui, je vis à Dubaï. Oui, j'ai des projets, je fais des choses. Et je vais pas me downgrader, en fait. Mm-hmm. Je suis obligée, enfin, c'est pas je suis obligée, mais je veux être avec un homme qui a le même niveau de vie que moi. Je demande pas non plus à un millionnaire ou un milliardaire, mais je demande à être avec quelqu'un qui a les mêmes moyens que moi, parce que je pense aussi, c'est même pas je pense, j'en ai discuté avec des amis. On a souvent ces débats avec nos amis, le débat de est-ce qu'on serait OK pour que notre mari gagne moins que nous. Ça, c'est aussi un débat, je pense, une question qu'il faut se poser avant de se mettre en couple, parce que ça peut créer des tensions dans le couple. Un homme qui gagne beaucoup moins qu'une femme, je pense que il a du mal à trouver sa place aussi après dans le couple. Et j'ai l'exemple avec des amis dans mon entourage qui sont dans cette situation. Et souvent, c'est pas un problème pour la femme. Nous, les femmes, on peut accepter ça, mais c'est souvent plutôt un problème pour l'homme, pour sa fierté, etc. De savoir qu'au final, c'est la femme en fait qui ramène l'argent à la maison, ça pose problème à certains hommes.
C'est pour ça qu'il faut en discuter.
Et ça aussi, c'est important d'en discuter et de savoir si tous les deux sont ok, se mettre d'accord en fait sur qui va faire quoi dans le couple et qui va financer quoi.
Moi, j'ai l'impression que tout devient très compliqué de nos jours parce qu'en fait, la société a en quelque sorte cassé les codes du couple, de la dynamique en fait qu'il y avait entre un homme et une femme. On a tellement cassé de choses dans les relations comme ça entre hommes et femmes qu'on ne sait plus comment se positionner, on ne sait plus comment communiquer. On ne sait même plus si on a le droit finalement d'avoir tel ou tel standard, de dire non, moi je veux ça pour ma vie, parce que voilà, on va s'attirer les foudres des féministes par-ci, des machos par-là. Et ça devient quand même très compliqué, je trouve, une sorte de brouillard, de flou.
Mais en fait, je pense que c'est aussi le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on va être constamment jugé sur quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Que je dise que je veux un mec qui gagne de l'argent, ou même que je dise que je veux un mec qui gagne moins que moi, on va me juger, on va trouver quelque chose à dire. Ça, c'est de toute façon le problème des réseaux sociaux, c'est que quoi que tu dises, tu seras jugé. Et ça s'est vraiment amplifié avec TikTok, avec Instagram, Snapchat, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à être, en étant sur les réseaux sociaux, j'ai appris à vraiment passer outre les commentaires des gens parce que ils auront toujours quelque chose à dire.
C'est important. C'est quelque chose qui te touche pas aujourd'hui ?
Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Alors ça m'a touchée au tout début quand je me suis lancée sur YouTube et que bah j'ai reçu les premiers commentaires des haters. Mais avec le temps, bah j'ai appris en fait, j'ai appris à comprendre pourquoi les gens avaient besoin d'exprimer leur haine, etc. Bah c'est surtout parce qu'ils étaient malheureux et parce que quand t'es épanoui dans ta vie, quand t'as tout ce que tu veux, etc., tu vas pas aller perdre ton temps à regarder une vidéo d'une fille que tu connais pas sur YouTube qui vit à Dubaï, alors que toi tu vis en France.
Mais t'imagines déjà le truc, regarder la vidéo, prendre le temps de commenter.
De commenter.
En te disant, ah ah, c'est bon, j'ai commenté, je vais répondre. Enfin, moi, il y a des choses, des fois, je te jure, qui me dépassent, Amel. Bah, comme je le dis souvent, moi, j'ai pas de réseaux sociaux personnels. Mais on travaille sur les réseaux sociaux, bien,
oui, bien sûr,
on a une chaîne YouTube, on a notre TikTok aussi qui grandit de plus en plus parce qu'on a nos vidéos avec notre série spéciale justement sur les personnalités du Middle-East qu'on est en train de travailler. Mais à titre personnel, je suis pas très réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours, je vais pas aller regarder les comptes, lire les commentaires et trucs comme ça. Et des fois quand on me dit, quand on me raconte ce qui se passe, je te jure, mais je tombe des nues. J'ai l'impression d'être une extraterrestre sur une autre planète. Et d'un autre côté, je me dis, bah, c'est pas plus mal, parce que ça me permet vraiment d'être moi-même, de me préserver et de faire des choix, de prendre des décisions qui me correspondent sans me comparer, sans avoir peur du jugement. Voilà.
C'est exactement.
Et je crois que ça, c'est vraiment important de prendre une distance. J'ai fait une interview là d'une jeune entrepreneure qui est à Dubaï et qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux et qui me disait quelque chose de très très juste. Moi, j'utilise Instagram pour mon business. Et avec le temps, en fait, elle a appris à prendre sa distance, tu vois, et à vraiment utiliser les bons aspects du social media sans forcément tout exposer. Même si je pense que ça reste quand même compliqué. À un moment donné, il y a toujours un petit truc dans ta tête. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi ton retour par rapport à ça. Parce que toi, au départ, voilà, tu t'es lancé sur les réseaux et sur YouTube pour partager ta vie à Dubaï. Et de fil en aiguille, t'en es arrivé à raconter ta vie personnelle aussi. C'est pour ça que... Ouais, je trouve ça intéressant d'avoir ton feedback et de savoir s'il y a des choses que tu referais différemment.
Par rapport à mon parcours sur YouTube ?
Ton parcours et peut-être les sujets que tu abordes, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais...
Non, vraiment, je suis pas quelqu'un qui est dans les regrets ou... Vraiment, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai partagé, j'ai aucun regret à l'avoir fait. Parce que même si je l'ai fait et que ça a été une expérience négative, j'en ai retiré une leçon.
C'est vrai.
Donc c'est vraiment, non, si je devais refaire... mon parcours sur YouTube, je referai exactement la même chose.
En tout cas, merci beaucoup d'être aussi ouverte et sincère sur ce sujet-là. En réalité, je pense que c'est une thématique qui pourrait même... on pourrait consacrer un épisode entier à ça.
Mais complètement. Et c'est surtout quelque chose... Moi, je sais qu'il touche beaucoup les filles qui me suivent, parce que j'ai beaucoup de trentenaires qui sont célibataires. Et donc, je vois dès que j'en parle...
C'est quoi leur retour à elles ?
C'est dur. Elles me disent, franchement, c'est dur... En fait, je pense que ce qui a changé aujourd'hui principalement pour nous, les femmes dans la trentaine, c'est que on a des standards, on a des exigences. Contrairement à il y a 20 ans, 30 ans, où les femmes n'étaient pas indépendantes financièrement, elles devaient dépendre de leur mari, etc. Donc, on était moins difficile, on était moins piquées, forcément. On acceptait d'être avec un homme qu'on n'aime pas forcément, qui nous traitait pas bien. Mais on acceptait parce que la vie était comme ça. On pouvait pas se comparer aux autres parce qu'il y avait pas les réseaux sociaux.
Ouais.
Donc ça aussi, je pense que ça, ouais, ça c'est un énorme point. C'est que avant, bah en fait, on le voit, la génération de nos parents, déjà divorcés, c'était hyper mal vu, etc. Donc ils avaient pas la même vie que nous. Et ce qui a principalement changé aujourd'hui, c'est que nous les femmes, bah on peut avoir accès à des super postes, on peut faire des super grandes carrières. On peut être voilà connu du jour au lendemain sur les réseaux sociaux et pouvoir vivre de ça, de notre passion. Et je pense que c'est ça qui a changé pour nous les femmes, c'est qu'aujourd'hui, bah oui, on n'a plus forcément besoin d'un homme pour être épanouie et pour pouvoir avoir une vie remplie. Alors je dis pas que il faut être alors attention hein, parce que je suis pas non plus la féministe qui va être là, on n'a pas besoin des hommes. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je pense que la femme a un rôle, l'homme a un rôle. Et il faut juste trouver, en fait, la personne qui nous correspond pour avoir bah, la vie épanouie qu'on rêve d'avoir. Mais aujourd'hui, et j'en parle aussi, comme je l'ai dit, moi, c'est vraiment un sujet qui revient très, très souvent avec mes copines. On préfère être seule que mal accompagnée, tout simplement. On préfère, surtout nous, entre copines, même les copines mariées, je ne vois jamais leur mari, je ne vois jamais leurs enfants à Dubaï, parce qu'elles ont les nannies, elles ont un lifestyle où elles peuvent se permettre d'avoir une vie de femme, en fait. Mm-hmm. De faire des week-ends entre copines, des sorties entre copines, et où elles n'ont pas les maris, elles n'ont pas les enfants, et elles sont aussi épanouies. Et on se rend compte que bah, le groupe de filles qui sont mariées et le groupe de filles qui sont célibataires, on s'éclate toutes entre nous. Il n'y a pas de « je suis jalouse qu'elle soit mariée » ou « je suis jalouse qu'elle soit célibataire ». On a des vies qui sont très différentes et ça nous convient à l'heure actuelle. Maintenant, c'est clair que si on peut être avec quelqu'un qui nous correspond et qui, avec qui on peut construire une famille, avec qui on sera épanoui, on le fera. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous les femmes, la plupart, on n'a juste pas envie d'être avec quelqu'un qui va pas nous rendre heureuses, en fait. Parce qu'on se rend déjà, on est déjà heureuses par nous-mêmes.
Oui, totalement, totalement. Ah, c'est intéressant, en tout cas. C'est intéressant parce que je pense que c'est un vrai sujet qui préoccupe de nombreuses personnes, pas seulement que les femmes, les hommes aussi.
Ouais, les hommes aussi. On leur en parle aussi.
Problèmes, ouais, ouais. Et encore une fois, moi, je suis convaincue que c'est les causes, en tout cas, c'est ces codes qu'on essaie de casser, que la société essaie de casser au fil des années. Indirectement par plein de trucs hein, qu'on nous met dans la tête et en même temps aussi bah, c'est question de moyens hein. Forcément quand on a les moyens, quand on a de l'argent, qu'on est confortable dans notre vie, bah oui effectivement on peut avoir des nannies, on peut avoir des femmes de ménage, on peut s'épanouir un peu plus en tant que femme, prendre le temps de le faire et avoir moins la question de l'argent qui revient tout le temps dans le couple et qui est quand même un gros facteur de problème très souvent.
Énorme. De stress aussi. Et je vois la différence entre mes amis qui sont mariés, qui ont des enfants en Europe.
Ouais.
Et mes amis qui sont mariés et qui ont des enfants ici.
C'est quoi la différence?
Elles ont pas la même vie, hein. Ah non, mais c'est, alors je sais pas si c'est typique de la, mais j'ai l'impression déjà que les maris font beaucoup moins en Europe qu'ici à Dubaï. Moi, quand je parle à des copines en France, elles me disent, ah mais non, mais, ah, je peux pas parce qu'il y aura personne pour garder les petits. Et je dis bah ton mari. Non mais il fait sa soirée avec. Ses... En fait, je trouve qu'en France, la charge mentale des femmes mariées avec des enfants, c'est waouh. Vraiment, c'est dur, je trouve. Et mes amies qui sont ici, bon, elles ont les nannies, hein, ça aide forcément. Mais je trouve que je sais pas, les maris, j'ai l'impression soutiennent plus ici parce que pareil, il y a la nannie. En fait. Ils ont bien réussi à comment dire. La maman, elle peut avoir sa soirée, le papa peut avoir sa soirée parce qu'il y a la nanny, mais ils peuvent aussi avoir leur soirée à deux, ils peuvent avoir aussi leur soirée avec les amis. Et je trouve que les gens à Dubaï, quand tu as les moyens, bien sûr, ont une vie beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus épanouie.
Est-ce que tu penses que la femme est plus valorisée dans les Émirats qu'en Europe?
Complètement. Je pense qu'elle est plus respectée ici.
Comment ça se matérialise? Comment ça se concrétise, ça?
Juste par rapport à la sécurité. Déjà, je pense que ça, c'est le point numéro un, c'est de savoir que t'es en sécurité ici, que tu peux t'habiller comme tu veux, que tu peux sortir à l'heure que tu veux, qu'on va pas t'emmerder dans la rue, te siffler. Rien que ça, je pense que c'est le point où on se sent vraiment respecté à Dubaï.
Ça, c'est clair. Mais après, dans la vie de couple, dans la vie de famille, comment tu vois ça, que la femme est plus valorisée, plus respectée au sein de sa propre famille, je veux dire, avec son mari?
Bah, ça, c'est l'exemple que j'ai de mes copines. Je peux pas généraliser cet exemple. Mais moi, de ce que je vois de mes amis, je pense que c'est le fait qu'ils ont, comme je te disais, une vie qui est plus équilibrée et épanouie parce qu'ils ont plus d'aide, des choses qu'ils n'ont pas en France.
C'est ça. Et plus de moyens. C'est normal. C'est entré dans les mœurs. En fait, avoir une nanny, une femme de ménage, c'est normal.
C'est normal, voilà, c'est ça.
C'est pas quelque chose qui est réservé uniquement aux
Exactement.
Riches.
Ouais. Alors qu'en France, je pense que les gens ont moins de moyens. T'as pas le même lifestyle qu'ici. Et donc, du coup, ça te crée plus de stress. T'as pas la nanny. Et c'est une galère. En plus, je sais, quand tu veux faire garder tes enfants à une soirée, il faut appeler la babysitter longtemps à l'avance. Et puis, attention, il faut bien rentrer à l'heure parce que sinon, elle te harcèle ou elle te facture je sais pas combien en plus.
Ou elle se bat.
Ou elle se bat. Ah oui, ça aussi. J'ai une histoire comme ça d'une copine qui est la babysitter, c'était barrée, quoi.
Horrible.
C'est, tu vois, il y a un facteur stress en France. qu'il n'y a pas ici. Non, mais vraiment, moi, j'ai jamais entendu des histoires cheloues comme ça ici. Et je pense que ça fait toute la différence parce qu'en fait, quand t'as le mari qui est épanoui, la maman qui est épanouie et qui ils ont leurs aides, etc. Bah forcément, ça crée une situation où tout le monde est épanoui et il n'y a pas ce facteur stress.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées reçues autour de la femme, de la place de la femme dans le monde arabe, notamment en France, en Europe. Tu vois, on entend toujours parler des mêmes choses. En réalité, quand on vit à Dubaï ou même dans les Émirats d'une manière générale, hein, on se rend compte en fait quelle place a vraiment la femme.
Ouais.
Et comment tout est mis en place pour lui faciliter la vie et qu'elle soit vraiment valorisée et respectée dans tous les domaines. Enfin, moi j'ai rencontré depuis que je suis ici plein de femmes dans plein de domaines différents. Et honnêtement, c'est des femmes qui ont des postes à responsabilité, qui prennent de vraies décisions, qu'on écoute vraiment. Hein.
Ouais. Il y a une vraie parité dans le gouvernement.
Il y a une vraie parité. Ça, c'est quelque chose qui m'a étonnée, mais tu vois, d'une bonne manière. Et puis même, des femmes au foyer, quoi. C'est valorisé.
Oui.
C'est des femmes au foyer, mais pour autant, elles ont leur activité à l'extérieur, elles font du sport, elles ont plein de hobbies. Oui, elles ont de l'aide aussi à la maison, et c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, on respecte la femme. Elle n'est pas là juste pour faire à manger, s'occuper des enfants et voilà, rentrer le soir totalement déglinguée par la journée qu'elle vient d'avoir. Quoi.
Exactement.
Et c'est super intéressant, je trouve, de remettre un petit peu, tu vois, les idées en place. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, arrêtez d'avoir des idées préconçues. Allez dans ces pays-là, rencontrez les locaux, rencontrez les gens qui habitent ici, comme toi, par exemple, une expatriée. Et vous allez avoir des retours d'expérience et ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses.
Oui, je pense que le principal problème de la mauvaise image de Dubaï, c'est que bah, les gens qui jugent et qui parlent, c'est tout simplement des gens qui ne sont jamais venus ici, qui connaissent Dubaï après, d'après les reportages sulfureux, enquête exclusive ou...
J'adore ce mot en plus, sulfureux.
Voilà, mais sincèrement, ici, on a une vie plus que normale, en réalité. Vraiment, c'est juste que... Oui, quand je dis plus que normal, mais on a accès à un meilleur lifestyle, mais au final, ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait.
Exactement. Exactement. En vrai, on a tous le même goal hein, dans la vie. Hein.
Exactement.
Être heureux, être épanoui, voilà.
Exactement.
Dans une vie paisible, tranquille.
Sans drama, avec du soleil.
Et avoir les choses facilitées. Enfin, ouais. Qui ne voudrait pas ça? Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie aussi. Hein.
Ah, tellement d'hypocrisie. Hein. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Oui, enfin, moi j'adore les services.
Moi je suis. Moi aussi. Mais de grande qualité.
Oui, voilà. Ou même des petites choses, tu vois. C'est idiot, mais voilà, ne pas porter ses packs d'eau, de pouvoir te les faire livrer chez toi, enfin, de pas devoir galérer. Il y a pas d'ascenseur chez toi, faut monter 5 étages avec tes packs d'eau. Tu vois, ce genre de choses ici, on n'a pas. Enfin, ça n'existe pas en fait. Donc, et c'est vrai qu'on s'habitue à un certain luxe en vivant ici.
Un certain niveau.
Ouais, un certain niveau.
Il y a un vrai level. Mais je trouve ça bien, en fait, d'être dans un pays qui va te tirer vers le haut, qui va te pousser à augmenter tes standards.
Parce que c'est un pays qui a une vision aussi.
C'est vrai.
Ouais. C'est un pays qui a une vision et tu sais aussi quelque chose qu'il n'y a pas en Europe, je trouve, ou qu'il n'y a pas dans énormément de pays. C'est qu'ici, tout le monde a un énorme, énorme respect pour la famille royale. On les admire tous. Il y a un vrai respect. Tu n'entendras jamais quelqu'un mal... Tu es en France, Macron, tout le monde parle mal de lui.
Oula, non, lui...
il s'en prend plein la gueule, le pauvre.
C'est
maintenant,
normal, sur les réseaux sociaux, au moment...
Tu vois, le gouvernement, enfin, tu sais, il y a des débats tout le temps, toujours, sur tout et n'importe quoi en France. Ici, il n'y en a pas. On est très reconnaissant en fait des Chir, de Dubaï, de ce qu'ils ont fait.
Ouais.
Moi, je les admire beaucoup. Enfin, encore plus, il est mort, mais le fondateur, Chir Zayed, donc tu te dis, il y a 52 ans,
ouais,
c'était un désert. Il y avait rien. Il s'est dit, voilà, on va construire quelque chose ici. On va en faire quelque chose pour le futur. Il a pensé à son peuple. Il a tout investi. Enfin. Je sais pas, enfin, moi, je trouve ça incroyable que d'avoir, tu t'imagines, il y a 52 ans,
ouais.
D'avoir eu cette
vision.
C'est rien.
Mais c'est rien.
C'est rien.
C'est rien.
Et d'avoir mis
ça en place. Pour construire une route à Paris, il faut 5 ans
pour
que ça se passe. Enfin, tout le monde est en panique totale pour les JO. Parce qu'on sait pas si on sera prêt, en fait.
Exactement.
T'imagines un petit peu?
Non,
on en est arrivé.
C'est chaud.
Alors, oui, on entend déjà, hein, ceux qui vont dire, mais non, mais faut pas critiquer. C'est la vérité.
C'est la vérité.
Faut prendre du recul, hein. Ouais. Vraiment, hein. Faut prendre du recul, faut essayer de réfléchir par soi-même, faut avoir l'esprit ouvert, se poser les bonnes questions et essayer d'avoir une vision un peu plus internationale.
Exactement.
Centrée sur soi-même. C'est très important pour sa vie, pour sa carrière, pour sa famille, pour ses enfants. Toi, par exemple, Amel, avec tout ce que tu vis aujourd'hui, t'es là depuis 7 ans, c'est ça ?
7 ans, ouais.
Est-ce que tu te, honnêtement, hein, vraiment, bien avec sûr. Sincérité, est-ce que tu te revois repartir vivre en France un jour ?
Oh, non.
Non ? Ouais, c'est un grand non. Jamais.
Deuxième sujet de conversation des expatriés ici, c'est à quel point on se sent bien à Dubaï. On adore parler de ça. Tu vois, encore hier, j'étais au Beach Club avec une amie. Bon, ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Parce qu'il faut pas croire, hein, les expatriés, on n'est pas tous les week-ends à la plage, parce qu'on travaille beaucoup. Et je lui disais, mais qu'est-ce qu'on est chanceuse. On est mois de février, on est à la plage, regarde, il fait beau, on boit un cocktail, on mange super bien. Et on était là, on se dit, mais les gens là en France, t'imagines, il fait froid. Et on se dit, mais quel pays aujourd'hui, même pas la France, tu vois, parce qu'on me demande souvent aussi, si je devais quitter les Émirats, où est-ce que j'irais? Honnêtement, je sais pas. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui t'offre cette qualité de vie. Et aussi un pays qui soit pas trop loin de la France, parce que moi je travaille beaucoup avec la France, donc il faut pas qu'il y ait un trop gros décalage horaire. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et si je devais partir des Émirats, ce serait pas pour retourner en Europe, ça c'est sûr. Tu vois, ce que j'envisagerais, ce serait Middle East. Pourquoi pas Qatar, Arabie Saoudite. C'est quelque chose que, pas tout de suite, parce que je pense qu'ils ont encore, il y a encore quelques années, il faut encore quelques bonnes années pour que ça se développe vraiment. Même l'Arabie Saoudite, pour moi, j'envisagerais même pas avant 10 ans. Qatar, peut-être 5 ans. Mais à un certain point, à un certain moment, je pense que, enfin, ça, c'est des pays qui ont énormément de potentiel, de toute façon.
Qui sont en train de se développer.
Qui sont en train, et qui sont en train de tout faire pour attirer les expatriés, justement.
J'ai l'impression que même Dubaï, c'est même un modèle de développement pour eux.
Ah, mais oui, clairement. Eux, ils s'inspirent énormément de Dubaï. Et bah voilà, si demain je devais quitter les Émirats, je pense que ce serait plutôt pour aller, je resterais dans le Middle East ou pourquoi pas, je sais pas, l'Asie. Ce serait vraiment
l'Asie. Ah ouais.
Pourquoi pas. J'aime beaucoup l'Asie. J'aime beaucoup.
Oui, c'est vrai que t'aimes beaucoup l'Asie. Toi. J'aime t'as beaucoup voyagé dans les pays asiatiques.
Mais c'est peut-être encore un peu trop. Comment dire. C'est peut-être pas encore assez développé aussi. Tu vois, j'adore Singapour, mais Singapour, déjà, c'est très, très cher. On dit souvent que Dubaï, c'est cher, mais Singapour, c'est pire. Oui. Et c'est très strict. Ils ont énormément de règles. Tu vois, même ça encore, les gens pensent que Dubaï, t'es filqué de partout, tu peux pas faire ce que tu veux, etc. Que c'est rigide. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, on a exactement la même vie qu'en France. Alors que Singapour, on n'en parle jamais, mais Singapour, ils ont des règles très strictes. C'est vraiment très, très strict, très régulé. Tu fais vraiment pas ce que tu veux. Et c'est même, je trouve, gênant. Moi, il y a des trucs qui me gênent. Genre, ne pas pouvoir mâcher de chewing-gum, c'est quand même un truc de fou, je trouve.
Moi, j'aime bien, parce que les gens qui mâchent leur chewing-gum, ça, je ne peux pas supporter.
Ah ouais, tu manges jamais de chewing-gum, du coup?
Jamais. Non. Et quelqu'un qui mâche un chewing-gum à côté de moi, non, je quitte la pièce.
Ah ouais, non, mais parce que tu fais du bruit, alors.
C'est une très bonne loi, ça.
Ok. Je voudrais appliquer partout. On interdit les chewing-gums
et les bruits,
les bruits, je suis d'accord, mais il n'y a pas tout le monde qui fait du bruit en mâchant.
Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui fait pas de bruit en mâchant du chewing-gum.
C'est vrai.
C'est toujours horrible. Rien que d'y penser, là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais je me suis jamais sentie aussi libre qu'en étant à Dubaï, évidemment.
Mais toi, d'ailleurs, ça t'intéresserait pas de venir vivre ici?
Il y a énormément d'opportunités. Ouais. Donc, why not? Moi, comme je le dis toujours, il faut suivre le flow et être ouvert aux opportunités qui s'offrent à nous, sans avoir de préjugés. Il faut tester et faire les choses qu'on a envie de faire, nous.
Voilà, sur
son télé. Mais pourquoi pas, il y a des très belles opportunités à Dubaï ou ailleurs. Hein.
Ouais.
Mais une chose est sûre, c'est que je pense que dans la vie, il faut, à un moment donné, se donner l'opportunité, même tu vois, dans l'année, faire un point, se poser, réfléchir et se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour avoir une meilleure vie? Parce qu'en fait, le temps passe tellement vite qu'on est pris comme ça, tu sais, dans le flow, les jours, les semaines, les mois. Et puis, vient la fin de l'année, on se dit, d'accord, ok, j'ai rien fait. J'ai pas atteint l'objectif que je voulais. Est-ce que j'ai vraiment progressé pour soi, pour sa famille, pour son couple, pour ses enfants? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire et voyager.
Voyager.
Voyager, c'est la meilleure chose au monde. Vraiment. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du respect que les Dubaïotes ont pour les émirs, pour les chefs, etc. Et c'est vrai qu'il y a un truc, moi, qui m'a vachement frappée. Tu vois, là, j'ai discuté ces quelques jours avec toute la team, l'équipe de l'hôtel Hyatt Centric Jumeirah, où on est. Et beaucoup d'entre eux, en fait, ont déjà lu la biographie du chef. Et moi, je me suis dit, mais attends, à quel moment j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit « j'ai lu la biographie d'Emmanuel Macron ». Jamais.
Moi aussi.
Toi aussi, tu l'as lu ?
Ouais, je l'ai. Lequel de, parce qu'il y a celui d'Abu Dhabi et celui de Dubaï.
Dubaï.
Ouais, Dubaï, ouais. Al Maktoum, ouais. Je l'ai chez moi.
Et alors, qu'est-ce que
je te la prête, si tu veux.
Ouais, totalement. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette biographie ? Qu'est-ce que ça t'a appris ?
Bah, en fait, moi, ça m'a appris que Dubaï, de base, est géré comme une entreprise.
Ouais.
Comme une start-up.
C'est ça.
En fait, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. De lire ce genre de biographie parce que t'as beaucoup à apprendre. C'est vrai, des vraies leçons d'entrepreneuriat. C'est des vraies leçons d'entrepreneuriat. C'est un homme, oui, qui a une vision, qui a continué la vision de Sheikh Zayed. Et non, c'est hyper inspirant. Et, moi, comme je t'ai dit, j'adore les success stories, j'adore lire ce genre, d'histoire, etc. Donc, même si oui, c'est des hommes quand même, ok. Ils sont nés, ils étaient déjà dans la famille royale. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà, comment dire?
Par héritage.
Ouais, ils l'ont eu par héritage.
Mais qu'est-ce que t'en fais?
Mais voilà, exactement. C'est que ils se sont pas contentés parce que t'en as combien de rois, t'en as combien de familles royales dans le monde, t'en as où, bah, ils gardent l'argent pour eux, ils font rien pour le peuple, etc. Eux, ils ont fait quelque chose et même dans tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent, leur peuple est toujours au centre, en fait, de leurs préoccupations.
C'est vrai.
Et ça, j'admire énormément.
Moi, c'est un truc que je ressens beaucoup, ça.
Je dis souvent, tu t'imagines si, en Algérie, avec ce qu'on avait, moi, je suis d'origine algérienne, l'Algérie, ça aurait pu être tellement de choses. Si, voilà, nos dirigeants, ils avaient eu un dixième de la vision de Sheikh Zayed, ça aurait pu être quelque chose d'énorme en Afrique. Et c'est pour ça que je pense que les gens, aujourd'hui, respectent énormément les chefs et la famille royale parce que ils auraient pu tout garder pour eux et dire on garde tout pour nous, pourquoi on devrait partager, pourquoi on devrait penser à l'avenir, et ils ont fait quelque chose d'absolument incroyable.
Ouais, c'est vrai, et du coup ça me donne encore plus envie de lire sa biographie. Moi j'adore lire les biographies,
oui.
Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait tu découvres toujours des aspects de la personne que t'as pas forcément entendu, tu vois, c'est des trucs un peu des détails,
ouais, mais
qui font faire toute la différence. Et ce que tu me dis, c'est vrai, c'est les feedbacks que j'ai aussi de cette biographie, des leçons entrepreneuriales, leadership,
ouais.
Et c'est hyper inspirant parce que tu dis finalement quand tu travailles, c'est comme quand t'es entrepreneur, quand t'as un objectif qui te dépasse, qui dépasse ta propre personne, là t'es capable vraiment de faire des belles, ouais, et grandes choses. Ouais, ça c'est sûr. Alors toi, Amel, t'es arrivée à l'âge de 29 ans, c'est ça, à Dubaï ?
29 ans, ouais.
Et aujourd'hui, tu en as 36.
Ouais.
J'aimerais savoir...
petite claque, là, que tu viens de
mettre. Non, c'est bien, ça veut dire que t'es encore là.
Ouais,
c'est
ouais,
bien.
Ouais.
Que de chemin parcouru.
Que de chemin parcouru, ouais.
Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise durant ce laps de temps en tant que femme, entrepreneur, expatriée à Dubaï ?
La plus grande leçon, c'est qu'il faut jamais abandonner. Parce que des obstacles, oh là là,
t'en as eu ?
Il y en a eu et il y en aura encore. Il y en a toujours, surtout quand t'es entrepreneur. C'est en fait la base. Enfin, je pense que si tu devais résumer la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes tout,
ouais,
le temps. C'est tout le temps ça. C'est mon quotidien, c'est ça. C'est résoudre des problèmes. Il y a ça, il manque ci, il manque ça. Ce prestataire, il nous a pas livré. Qu'est-ce qu'on fait comme ? C'est ça en fait. Et je te dis la vérité, moi, plein de fois, hein, j'ai envie d'abandonner, ça me saoule. Je me dis, mais pourquoi je fais pas un truc facile ou et en fait, c'est pas gratifiant de choisir quelque chose. Ce qui me fait tenir, c'est ce qu'il y a à la clé derrière, c'est savoir aussi, parce que je suis aussi créatrice de contenu, tu sais, donc je fais aussi des vidéos sur YouTube, etc. Et je sais que ce que je fais aide énormément de gens. J'ai un vrai impact. Et même de partager mes déboires, rien que ma situation personnelle, tu vois, je sais que en parler, en fait, ça aide les gens. Donc, si je continue, si j'abandonne pas, c'est que j'ai une vision à long terme. Je fais pas des choses pour le court terme. J'aurais pu faire, tu vois, on m'a proposé des deals dans l'immobilier, dans les cryptos NFT, où tu te prends un gros billet, tu te niques ta réputation, mais tu te prends un gros billet et tu te fais beaucoup d'argent sur le court terme. J'ai jamais fait ce genre de choses, j'ai jamais choisi la facilité. J'ai toujours eu une vision long terme parce que je pense, je vois the big picture, tu vois, un peu comme les chiens ici. Ils ont toujours, ils pensent à la big picture. Ils voient pas court terme. Donc, ce que je fais, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, même tu sais le fait de choisir mes interviews, avec qui je fais des interviews, les projets, les partenariats, tout ce que je fais, c'est réfléchi. Alors ouais, ça prend du temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Parce que voilà, je refuse plein de partenariats, donc ça veut dire refuser de l'argent, donc ça veut dire se développer moins rapidement, etc. Ça veut dire faire face à beaucoup d'obstacles, beaucoup de galères, etc. Mais je sais que à la clé, il y aura quelque chose de vraiment grand.
C'est quoi justement ta big picture? C'est quoi pour toi le goal ultime? Tu vois, l'arrivée
plus tu moi le goal. Donc actuellement, moi, le goal, vraiment la chose sur laquelle je me focus, c'est le développement de ma marque King Coco. C'est vraiment d'installer ma marque mondialement. Donc on commence là avec la France et le Middle East. La France, tout simplement parce que c'était pas forcément parce qu'on voulait être en France, c'est parce que j'ai une grosse communauté en France qui me soutient et qui voulait absolument tester le produit. Donc on se devait d'être présent là-bas, mais on commence par le Middle East, mais après, oui, on veut conquérir le monde. Ça, c'est the big picture.
C'est quoi, du coup, pour toi, le process pour conquérir le monde? Est-ce que tu as déjà pensé la stratégie que tu as envie de mettre en place, quoi?
Bah, déjà, nous, là, on s'intéresse à Dubaï. Donc, c'est surtout d'être vraiment présent partout à Dubaï, d'avoir le plus de visibilité possible. Donc, nous, notre produit, pour le moment, il est commercialisé uniquement en ligne. Et on va être petit à petit en retail, donc dans les concept stores, les beach clubs, beach stores, etc. Ensuite, on veut s'attaquer au Middle East, donc Arabie Saoudite, Qatar, etc. Et bien, petit à petit, être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, être viral. On a un produit qui peut être viral aussi sur les réseaux sociaux. Et ensuite, aller vers l'Europe et ensuite les États-Unis.
Bon, toi qui veux justement installer mondialement à l'international, c'est le moment ou jamais. Là, tu es dans mon podcast Le Manal Show. Top chrono, une minute pour pitcher ta marque King Coco.
Alors, ma marque King Coco, donc en une minute?
Okay. Si tu peux. Après, si tu dépasses un peu, t'inquiète pas, hein, ça va bien se passer. Je ne dirai rien. Mais grosso modo, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas?
Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas King Coco. King Coco, c'est une huile de coco qui n'est pas comme les autres. Donc, c'est une huile de coco que j'ai découverte quand je suis allée au Sri Lanka, il y a 4 ans, que j'ai découvert par hasard. Donc, au Sri Lanka, ils ont une variété de noix de coco qui s'appelle la King Coconut, la coco royale. Donc, la coco traditionnelle, elle est verte, la King Coconut, elle est orange. Elle n'a pas les mêmes propriétés. Et elle produit 2 fois moins d'huile qu'une coco normale. Et du coup, l'huile est beaucoup plus concentrée, beaucoup plus nutritive. Et au Sri Lanka, l'huile de coco royale, et c'est un secret de beauté des Sri Lankaises. Parce que ce sont des cheveux magnifiques, une peau magnifique, et elles utilisent ça. Donc j'ai découvert ça par hasard. C'est une huile de coco qui existe uniquement là-bas, qui est très difficile à trouver. On a galéré, on a mis 3 ans pour pouvoir sortir notre huile de coco royale avec ma sœur. Donc, je l'ai découvert là-bas et j'ai voulu en racheter quand je suis rentrée à Dubaï. J'en ai pas trouvé, impossible d'en trouver nulle part. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire notre propre huile de coco royale, donc qui s'appelle King Coco. Et les bénéfices pour King Coco, c'est que tu vas avoir des cheveux incroyables avec juste un masque de King Coco. Tu vas se poser quelques heures. C'est 100% naturel, 100% organique. Tu peux aussi bien l'utiliser pour tes cheveux, pour ta peau, pour te démaquiller. Donc c'est vraiment une huile qui est multifonction et qui est naturelle et organique.
Bah super, en tout cas ça donne vachement envie, tu l'as super bien pitché. Hein.
C'est vrai?
Vraiment, okay. Ouais. Et j'aime beaucoup le nom King Coco, je trouve que ça reste vraiment dans la tête.
Tout le monde le retient. Alors c'est vraiment un nom que on voulait un nom impactant et facile à retenir. On sait aussi parce que le fruit s'appelle King Coconut, mais tout le monde le retient, donc on est super content.
Et donc là toi tu as décidé de développer un business avec un monoproduit. Donc, la King Coco.
Pour le moment, ouais. Donc, on a démarré avec cette huile qui est vraiment... on veut en faire un peu... ça va être vraiment notre produit phare.
Ouais, le
best-seller, etc. Mais bien sûr, on veut développer toute une gamme de produits autour de la King Coco. On va commencer par le cheveu. Donc, tout ce qui est shampoing, après shampoing. Puis ensuite, on va aller vers le corps. On veut, mais En fait, ce qui est génial avec la coco, c'est que tu peux le mettre dans tous les produits cosmétiques.
Totalement. Ouais.
Donc, ça peut être aussi pour des produits solaires, ça peut être des produits oral care, ça peut vraiment être tout. Donc, en termes de possibilités, on n'est vraiment pas limité. Ça, c'est ça qui est génial. Mais c'est surtout qu'on a un produit. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est mon produit, mais on a un produit qui tient ses promesses. Parce que c'est quelque chose quand même de dire, c'est pas une huile de coco ordinaire, attention, c'est vraiment une huile de coco incroyable avec des super vertus.
On trouve pas partout.
Bah, de toute façon, c'est simple. Si tu veux acheter de l'huile de coco royale, aujourd'hui, sur Internet, t'en trouveras pas. Tu peux en trouver au Sri Lanka, mais même au Sri Lanka, c'est très compliqué. Nous, on a dû aller au Sri Lanka plusieurs fois avec ma sœur pour trouver un fournisseur, un industriel, qui accepte de nous ouvrir une ligne de production pour produire de la King Coco. Donc ça a été un long parcours aussi. C'est pour ça que je te disais, ouais, l'entrepreneuriat a beaucoup d'obstacles. Hein. Vraiment, j'ai eu envie d'abandonner 10 fois avec King Coco. Mais au final, on l'a sorti et les retours sont incroyables.
Mais justement, tu m'as dit, on a mis 3 ans, c'est ça, pour développer
entre l'idée et le lancement.
Et la concrétisation. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette étape pour toi, dans la construction de cette marque?
Dans la construction de la marque, je pense qu'il a été le plus difficile. Ça a été toute la partie négociation avec le Sri Lanka, la partie fournisseur. Ça a été très dur parce qu'en fait, quand on a commencé à rechercher des fournisseurs au Sri Lanka, il y avait le Covid et il y avait aussi le pays à ce moment-là, donc c'était en 2021-2022, qui traversait une très très grave crise économique et politique. Ils étaient à la limite de la guerre civile. Donc ça a été très compliqué les négociations. On a quand même réussi à trouver un fournisseur, mais pareil, il fallait trouver un fournisseur qui avait des certificats, qui avait certains standards européens, etc. Parce que nous, notre objectif, c'était dès le début, on savait qu'on voulait vendre en Europe. Et donc pareil, quand tu veux vendre un produit cosmétique en Europe, il faut remplir certains critères, etc. Donc ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de galères pareil, les samples, valider l'huile, l'odeur, comment, le process. Puis c'est le Sri Lanka, hein, c'est pas... Moi, je fais aussi du business avec la Chine. La Chine, ils sont super efficaces, super rapides. Le Sri Lanka, faut t'accrocher, hein, c'est les îles, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que les process sont plus longs, sont moins réglementés, c'est un peu freestyle. Ça a été très long, très compliqué, mais on a réussi.
Ça y est, t'as réussi.
On a réussi.
Bah déjà, ce que je voulais dire, c'est félicitations pour ça, Mel.
Merci.
Parce que je sais à quel point c'est difficile, hein, quand on veut lancer un business, quel qu'il soit, sur un service, un produit. Mais toi, tu t'es quand même lancé dans un domaine encore plus compliqué, hein.
Ouais.
Dans notre pays, un produit quand même qui est assez spécifique. Mmh. Voilà, t'as dû gérer pas mal de choses. Bravo déjà d'être arrivé là.
Voilà.
Là, t'es là, ouais. Tu l'as fait.
Je précise aussi que bien sûr, je l'ai pas fait seule, il y avait ma sœur.
Il y avait ta sœur.
Ouais. Donc c'est vraiment avec ma sœur. Et il faut dire la vérité, c'est surtout ma sœur qui a géré la partie chiante et relou. Parce que donc moi, je suis en front office, moi je gère plutôt tout ce qui est marketing, communication. Et ma sœur Yasmine gère tout ce qui est back office, donc tout ce qui est fournisseur, administratif, compta, etc. C'est elle. Donc elle a pas hérité de la partie la plus facile.
Bon bah bravo à la sœur d'Amel pour tout ça. Personnellement, c'est un truc que je pourrais jamais faire. Hein. Gérer toute cette partie-là, c'est l'horreur. Bon,
ouais.
C'est toujours bien d'être épaulé par quelqu'un de confiance, surtout.
Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut être à deux, je pense, quand tu démarres un business.
Ouais.
Seul, c'est impossible. Non. Vraiment seul, c'est pas possible.
Donc, King Coco, pour ceux que ça intéresse, où est-ce qu'on peut trouver ça?
Alors, actuellement, en ligne, on a un site internet, donc kingcococare.com. Care, C-A-R-E. Et on vend donc en Europe et on vend au Middle East.
D'accord, de toute façon, on mettra tous les liens en description du site. Je crois que tu as aussi une page Instagram.
On a aussi une page Instagram,
ouais. Comme ça, vous pourrez aller checker ça et vous allez voir, c'est génial. Moi, en tout cas, j'adore la noix de coco, c'est un truc que j'utilise depuis des années.
Et bah, t'inquiète pas, tu vas repartir avec un petit pot de King Coco.
Alors, Amel, lors de notre dernière rencontre, on a beaucoup parlé de spiritualité. Et tu m'as dit que c'était vraiment un aspect très important dans ta vie. Ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est si le fait de vivre dans un pays musulman, ici à Dubaï, ça enrichit cette spiritualité.
Oui, complètement. Complètement. Parce qu'en fait, ici, encore une fois, La religion n'est pas un débat. En fait, ici, enfin, les Émirats sont un pays qui sont très ouverts culturellement parlant, très tolérants. On célèbre toutes les fêtes religieuses, que ce soit Noël, Diwali, l'Aïd, le Ramadan, tout est célébré. Et du coup, je trouve que ça crée un climat serein par rapport à ça, par rapport au fait que tu peux vivre ta foi comme tu as envie de la vivre. Même si tu, voilà, si tu veux la vivre à fond et être très pratiquant, très religieux, tu le peux. Si tu veux la vivre, voilà, un peu plus modestement, discrètement, c'est possible aussi. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment génial aux Émirats, c'est cette ouverture d'esprit, cette tolérance qui fait que la religion n'est pas un débat. Alors, quand tu compares à la France, l'islam est un débat quotidien. On a l'impression qu'on doit se justifier de pourquoi on fait les choses de telle ou telle manière, etc. Ici, il n'y a pas. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que tout le monde vit sa foi comme il a envie de la vivre ici et sans aucun jugement. C'est ça le plus important.
Et je suis curieuse de savoir si tu as déjà vécu un moment de connexion spirituelle fort et profond.
Aux Émirats?
Oui, ces dernières années, donc aux Émirats.
Ouais, moi, je sais pas pourquoi, mais dès que je vais dans le désert ou que je vais dans la nature ici et qu'on est, voilà, un peu éloigné des grandes villes et qu'on se retrouve vraiment en pleine nature, que c'est calme, et surtout dès que je vais dans le désert, et je dors toujours super bien dans le désert. Je sais pas, il y a une certaine énergie. Puis je trouve, je le dis souvent, pour moi, le désert, c'est l'âme de Dubaï, vraiment.
C'est joliment dit.
Et du coup, dès que je vais dans le désert, ouais, je ressens vraiment cette connexion. Je suis toujours hyper sereine. J'adore aller dans le désert. J'y vais pas assez souvent. Mais tu vois, peut-être une fois tous les 3 mois, on va aller se faire un camping ou une soirée dans le désert entre amis. Le mieux, c'est quand tu vas camper et que tu restes toute la nuit et qu'il y a personne et que, comme t'es loin de la ville, tu vois, bah, tu peux même voir les planètes si t'as un télescope. Tu peux voir les étoiles, etc. Donc, c'est vraiment incroyable.
Se retrouver en pleine nature, c'est hyper important. Hein.
C'est hyper important.
Pour méditer, observer ce qu'il y a autour de soi, trouver une certaine paix, une sérénité, vraiment.
C'est ça.
Qu'on n'aura jamais en restant dans son petit appartement ou sa maison. C'est bien, ouais, c'est vrai, hein, la connexion en pleine nature. Mais j'imagine d'autant plus dans le désert. Il y a un truc spécial avec le désert.
Vraiment, il y a un truc spécial avec le désert, ouais. Il y a vraiment une énergie spéciale.
Et est-ce que tu peux me dire comment ta spiritualité à toi t'aide au quotidien dans ta vie, que ce soit au travail, avec tes relations? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment ça enrichit ta vie de tous les jours?
Bah, je pense que quand tu crois en Dieu, quand tu as la foi, tu as confiance en fait. Tu sais que tout ce qui t'arrive, les galères comme les bonnes choses, les mauvaises expériences, tout arrive pour une raison. Et du coup, tu l'acceptes beaucoup plus facilement que
une sorte de résilience.
Exactement. Si, parce que si tu crois en rien, en fait, comment tu vas justifier tout ce qui t'arrive? Alors que, encore une fois, bon, on va revenir sur cette rupture amoureuse. Mais, tu vois, quand c'est arrivé, ben, quand tu sais que rien n'arrive par hasard et que tout arrive pour une bonne raison et que de toute façon, c'est pas toi qui décides, tu l'acceptes en fait beaucoup plus facilement et t'arrives plus facilement à passer à autre chose. Donc au quotidien, bah de savoir que, enfin oui, moi je crois en Dieu, j'ai la foi, je prie, etc. Donc tout arrive pour une bonne raison. Donc on l'accepte beaucoup plus facilement. On va moins, tu vois, quand j'ai une galère, quand j'ai une mauvaise expérience, forcément, bien sûr, je suis humaine, donc ça va m'énerver peut-être quelques heures, une journée, 2 jours, mais je vais assez vite passer à autre chose. C'est pas quelque chose qui va rester, que je vais pas cultiver de haine ou de regret par rapport à ça. Je vais facilement passer à autre chose et je vais aller de l'avant.
Et qu'est-ce que tu demandes en particulier dans tes prières à ce moment-là de ta vie?
Là, ce que je demande en ce moment, bah, c'est de pas abandonner pour King Coco, de continuer parce que je sais que ça va être long. Ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, parce que avoir le goal d'être une marque worldwide, c'est clair que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais là, à l'heure actuelle, on commence bien, on est bien entouré et on est très content. Mais ouais, ce que je demande, c'est de pas perdre de vue cet objectif. Pas perdre de vue cet objectif.
C'est quelque chose à laquelle tu penses souvent. C'est un sujet qui te préoccupe en ce moment, le développement de ta marque.
Ouais, ouais, ça me préoccupe. Ouais. Bah, d'un point de vue financier, rien que d'un point de vue financier, c'est que voilà, on va parler français. Je vis à Dubaï. Financièrement ici, c'est de plus en plus dur. Dubaï, 2024. Bah là, tu vois, j'ai déménagé. Je paye deux fois ce que je payais avant à la marina. Parce que aussi maintenant je suis seule, donc forcément je paye plus. Mais aussi ça, c'est un vrai sujet à Dubaï en 2024, c'est l'aspect financier. On se rend compte que il y a de plus en plus de barrières ici. Tout devient de plus en plus cher. Même quand on dit oui, crée ta boîte ici, c'est génial, tu vas pas payer d'impôts. Tu payes pas des impôts, mais il y a d'autres frais cachés que tu vas devoir payer et qui au final sont quand même assez conséquents. Donc ouais, moi l'aspect financier, c'est quand même un sujet voilà qui me préoccupe, on va dire, parce que ouais, ça devient de plus en plus compliqué ici.
Si tu pouvais écrire une lettre à la petite Amel de 10 ans. Tu sais, c'est l'âge auquel on a plein de rêves, on est encore un peu innocent quoi.
Ouais.
Tu lui dirais quoi ?
La petite Amel de 10 ans. Alors attends, à 10 ans, j'étais quoi ? J'étais en CM1, CM2, ouais. J'étais pas encore au collège. J'étais déjà très, très studieuse. J'aimais beaucoup l'école. Moi, j'ai beaucoup aimé l'école. Qu'est-ce que je lui dirais ? Bah, je lui dirais vraiment de continuer à travailler à l'école. Je lui dirais d'avoir confiance. Je pense que je t'avais déjà dit ça dans
il me semble, ouais. Ouais. Une question de confiance en soi, ouais.
Moi, je pense que c'est ça. En fait, je lui dirais pas, oui, fais pas ci, fais pas ça, parce que, encore une fois, je suis pas une personne qui a des regrets. Tout ce que j'ai fait, je le regrette pas et je referais exactement la même chose. Si je devais redémarrer ma vie, je referais la même chose.
Tu changerais rien.
Non, je changerais rien. Vraiment, je changerais rien. Parce que je suis là aujourd'hui, je suis là où je voulais être, en fait. Le chemin va être encore long, hein. Je suis même pas à la moitié de ma vie, donc il me reste encore plein de choses à vivre.
Bien sûr.
Mais ouais, sincèrement, je dirais d'avoir confiance et de se laisser aller, se laisser porter par la vie, et tout va bien se passer.
Et aujourd'hui, est-ce que ta vie ressemble à ce que tu avais imaginé il y a quelques années ?
Pas du tout. C'est mieux en fait.
C'est même mieux. Ouais. Ouais, c'est génial. C'est
ouais.
Super.
Ouais. Ouais, vraiment. Tu vois, quand je suis arrivée à Dubaï, jamais je me suis dit que j'allais être créatrice de contenu, que j'allais faire des vidéos. Tu vois, on a fait un event, on a fait le lancement de King Coco la semaine dernière. Il y avait plus de 150 personnes. C'était génial. Et les gens, enfin, sont venus pour King Coco. On célébrait aussi mon anniversaire, donc sont venus aussi pour moi. Et jamais, mais jamais, à 30 ans, je me souviens quand... je cherchais du boulot ici, que je galérais, que j'enchaînais galère sur galère. Jamais je me suis dit, tu vois, que j'allais pouvoir être là aujourd'hui et te dire tout ça, quoi. Donc, non, c'est même mieux.
C'est vrai que t'as une vraie résilience en toi, Amel. Parce que on s'imagine pas forcément comme ça, on te voit un peu sur les réseaux et tout. Mais en fait, ça fait quelques années hein, que t'es là, que tu bosses. T'as testé quand même pas mal de choses. Même dans ta carrière, quoi. Tu faisais du marketing digital, t'as travaillé en tant que consultante.
Ouais.
Maintenant, t'es entrepreneur, t'as lancé ta propre marque, t'as testé plein de choses sur les réseaux. C'est quelque chose qui te caractérise, ça, vraiment, la résilience. Qu'est-ce qui fait que tu restes toujours aussi motivée et passionnée et t'arrives toujours à avancer, à aller de l'avant?
Bah, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Bah, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a la foi.
La foi.
La ouais. foi, je pense que c'est vraiment, c'est quelque chose qui t'anime, ça. Si t'as pas la foi, ça va être très dur pour toi. Tu vas abandonner très facilement. Mais quand t'as la foi, que t'as confiance, que t'as des valeurs, que t'as une famille aussi. Famille, je pense que ma famille, c'est quelque chose. Ma sœur, ma mère.
C'est un truc qu'on a vraiment en commun.
Ouais.
Le socle familial.
Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui t'aide aussi à avancer. Ces valeurs familiales, enfin cette éducation en fait que j'ai eue tout simplement, j'ai eu une super enfance, j'ai des parents géniaux, j'ai une sœur géniale et t'as aussi en fait on fait aussi ça pour eux, enfin je fais aussi ça pour mes parents en fait, J'ai envie de leur rendre aussi ce qu'ils m'ont donné. Ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. On prend ça un peu aussi pour acquis, tu sais. Mais non, tout ça, je pense que c'est vraiment... Toutes les fois, tu sais, toutes les fois où je me sens mal, où j'ai envie d'abandonner, j'appelle ma maman. J'appelle ma maman. Ma maman, c'est une personne incroyable, une femme incroyable que j'admire beaucoup. Très pieuse, très patiente, très empathique. Donc, dès que ça va pas, un petit coup de téléphone à maman. Et tout va mieux. Tout va mieux parce que, en fait, tes parents, ils t'aident à relativiser. Tu vois, parfois, tu vois, j'étais là en fin d'année, juste avant de lancer King Coco. Bah forcément, tu sais, ma sœur et moi, on a mis tout notre argent. On n'a pas d'investisseur, donc tout notre argent dans King Coco. Comme je te disais, la vie à Dubaï devient très chère. Il fallait que j'avance 6 mois de loyer. J'ai tout qui est arrivé d'un coup. J'avais King Coco, le loyer, notre renouvellement de licence. Waouh. Et là, on fait les calculs. Tout ce qu'il faut sortir en argent pour la fin de l'année. Et là, j'ai eu un coup de stress monstrueux. Et là, j'étais en panique. Je lui ai dit, mais comment je vais faire? Et puis, j'appelle ma mère. Elle me dit, mais oh, c'est quoi? C'est que de l'argent? C'est pas grave. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Et ta famille, on est là. T'en fais pas pour ça. T'as la santé, c'est le plus important. On est en bonne santé, t'es en bonne santé. Ce qu'il y a de plus important, l'argent, elle me dit. L'argent, ça va, ça vient. On en trouvera, t'inquiète pas. Et là, tu vois, et c'est vrai en fait. L'argent, c'est que de l'argent, c'est pas... Bon, tant que voilà, je suis pas endettée, tu vois, et que je dois pas, voilà. Mais ce que je veux dire,
c'est... Se sentir soutenue, ouais,
c'est ça,
entourée.
En fait.
Ouais. Se dire que même si c'est un souci, en fait, t'es pas seule.
En fait, c'est ça qu'elle m'a dit.
Il y a des solutions.
Elle m'a dit, t'inquiète, c'est pas grave, on va trouver, t'en fais pas, c'est rien. Elle me dit, c'est ça. Elle me dit, mais c'est pour ça que tu sens.
Elle ça vient relativiser.
Ouais. Elle me dit, mais c'est rien ça, on va trouver, t'inquiète pas, non. Et on a trouvé, tu vois, on a trouvé. Heureusement que mes parents sont là, quoi. Heureusement. En fait, je pense que quand tu fais ce genre de projet, tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou même quand t'es sur les réseaux sociaux et t'as cette présence et que du coup tu te prends un peu de la pression de partout comme ça, je pense que le plus important, c'est ton entourage.
Ouais, totalement.
Il faut être bien entouré, il faut avoir ta famille qui te soutient, il faut avoir tes amis qui t'envient pas, qui te tirent vers le haut, qui vont t'aider, etc. Je pense que si t'as ça, tu peux tout surmonter.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta maman aujourd'hui que tu ne lui as jamais dit auparavant? Message personnel
qui pourrait... Un message personnel pour ma mamounette. que je suis fière d'elle. Je suis fière de ma maman. Je pense que... C'est quelque chose qu'on dit pas assez à nos mamans, qu'on a pris pour acquis. Nos mamans. Ma maman, quand j'y repense, elle était tout le temps là à venir nous chercher à l'école. On a passé beaucoup de temps avec notre maman. On a eu beaucoup de chance de... Parce que ma maman, elle travaillait de la maison. Elle est assistante familiale, tu sais. Je sais pas si ça, je te l'avais dit, mais on était une famille d'accueil, en fait.
D'accord.
Et donc, ma maman s'occupe d'orphelins, s'occupe d'enfants, etc. Elle le fait toujours à l'heure actuelle. Et ma maman, ouais, c'est vraiment une superwoman. Et je pense que quand t'es petit, que tu grandis, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, tu prends ça pour acquis. Ta maman, elle est tout le temps chez toi, c'est normal, en fait. Ta maman, elle te fait ce que tu veux à manger, mais c'est normal. Enfin, ton linge, il est plié, il est fait, c'est normal. Et là, je me rends compte aujourd'hui, tu sais, j'ai même pas d'enfant, je vis à Dubaï, donc on a accès à plein de choses, et je me dis, tout ce que je dois faire, le ménage, les trucs, et machin, je fais, comment elle faisait, nos mères? Même quand c'est le ramadan et que je fais un iftar chez moi et que je dois cuisiner et tout nettoyer après, je me dis, mais ma mère, elle faisait ça tous les jours et tu ne les entends jamais se plaindre. Mmh. Jamais.
C'est vrai, hein? C'est vrai.
Et donc, ce que je dirais à ma mamounette, c'est que vraiment, je suis fière d'elle et que je l'aime très, 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 très fort et que j'ai hâte qu'elle vienne bientôt dans mon nouvel appartement. Elle va venir en avril.
Elle a jamais pensé à venir habiter ici, à Dubaï.
Mais c'est le projet, on voudrait.
Ouais,
on voudrait. On fait tout ça pour elle aussi. On fait tout ça pour qu'elle puisse venir et être plus souvent avec nous.
Ouais, exactement, pour passer encore plus de moments ensemble.
C'est ça.
On a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Ce qui revient aussi beaucoup, c'est voilà, on prend de l'âge. Mmh. On gagne en maturité, en expérience, en leçons. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la chose la plus surprenante que tu as apprise sur toi en prenant de l'âge, en vieillissant?
Sur moi, d'un point de vue, tu veux dire
personnel. Sur ta personnalité, ton caractère. Pardon, ta personnalité, ton caractère. Voilà, quelque chose vraiment de personnel.
Que j'ai appris.
Parce que personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur moi ces dernières années et je trouve qu'en vieillissant, il y a beaucoup de choses qui changent.
Mm-hmm.
On devient différent, quoi.
Ouais.
Voilà, on n'est pas la même personne qu'il y a 10 ans, fort heureusement.
Heureusement. Moi, ce que je remarque sur moi, maintenant, c'est que je fais plus dans la dentelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai... Tu sais, avant, j'étais un peu une people pleaser.
Ouais.
Je voulais que les gens m'aiment, je voulais pas trop froisser les gens. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, il faut le dire avec diplomatie. Alors, attention, je le dis toujours avec diplomatie, mais maintenant, je ne perds plus mon temps. Mmh. Tu vois, genre là, et je le vois vraiment avec King Coco parce que on recrute des gens, on a des prestataires, on bosse avec des agences. Et en fait, j'ai plus le temps. J'ai pas le temps de prendre des pincettes et de pas froisser les sentiments ouais. des gens. Non, en fait, moi, je suis plus directe. Ouais.
ouais.
Je pense que ça, et je le suis de plus en plus, malheureusement. Parce que tu sais, plus tu vieillis, plus ta personnalité s'accentue.
Ouais.
Tu vois.
C'est vrai.
On le voit avec nos parents. Je sais pas si tu
ouais,
vois.
Ouais, ouais,
tu vois, genre les défauts de tes parents s'accentuent avec l'âge. Tu vois, mon papa, il est grincheux de base. Donc plus il vieillit, plus il devient grincheux. Tu sais. Et moi, je remarque que plus je vieillis. Je suis de plus en plus intransigeante avec les gens.
Mais je trouve que c'est une qualité, moi. C'est pas plus mal, hein.
C'est pas plus mal, non, mais et je pense que c'est une qualité, c'est quelque chose que tu dois avoir quand t'es entrepreneur.
Ouais.
Parce que tu peux pas, en fait, tu peux pas être tout le temps dans l'empathie et voilà, il a mal fait son travail, mais attention, il faut lui dire.
Beaucoup d'années ouais. autour. Droit au but. Hein.
Moi, maintenant, je suis... Mais ma sœur, du coup, elle me dit que ma sœur est très diplomate. C'est pour ça qu'elle est très bien en back-office.
Ouais, ouais.
Parce
que... Je comprends mieux.
C'est pour ça, parce que si c'était moi... non. Ma sœur a été très longtemps dans le corporate. Donc, elle était 15 ans dans le corporate. Donc, elle a appris tout ce qui est politique, etc. Comment parler aux gens, les psychologies, nanana. Moi, j'ai pas le temps. Donc, c'est pour ça que quand il faut... on va dire virer des gens ou ce genre de choses, c'est
on s'appelle Amel.
Non,
c'est ta sœur.
Parce que moi, c'est
ouais, ça trouve peut-être trop de mal aux gens.
Ça va trop de mal, c'est trop direct. Parce que ma sœur, elle a vraiment l'entre-deux.
Ouais, ouais.
Parce que moi, je suis trop directe, malheureusement.
Ouais. Ouais, je me vois un petit peu en ça aussi. Hein.
Ouais.
J'ai tendance à être assez directe aussi. Ouais,
ouais. Ouais.
Bon, après, faut apprendre parfois, comme tu dis, à
ouais.
ménager un petit peu les sentiments ouais. des uns et des autres. Mais c'est fatigant. On est d'accord.
Ouais.
Bon, Amel, tu le sais, je t'ai demandé d'apporter quelque chose, un objet assez spécial qui a une signification pour toi, pour nous raconter un petit peu l'histoire qui se cache derrière cet objet. Et j'aimerais bien savoir ce que tu as choisi aujourd'hui.
Alors, ça a été difficile parce que moi, beaucoup d'objets de valeur sont en France, en fait, chez mes parents.
Okay.
Et puis après, avec mon déménagement, j'ai pas encore tout déballé, etc. Mais il y a un objet que j'ai ramené aujourd'hui. Quand je regardais ce que je pouvais ramener, je me disais, ah, mais cette bague, c'est une jolie histoire, je pourrais la ramener.
Alors, raconte-moi un petit peu l'histoire de cette bague.
L'histoire de cette bague, c'est l'histoire d'un voyage en Inde. J'en ai fait deux. J'ai fait deux voyages en Inde cet été. Le premier, donc, en juin, où je suis partie 10 jours en Inde avec moitié, donc j'avais un ami et ensuite j'étais toute seule la deuxième partie du voyage.
Ah oui, d'accord.
Donc toute l'histoire de ce voyage est d'ailleurs sur YouTube, j'en ai fait un vlog qui a fait énormément de vues. L'Inde, c'est un voyage, c'est un pays qui ne m'attirait pas du tout à la base. C'est vraiment un pays, encore une fois, j'avais des a priori. J'avais beaucoup d'a priori. Même quand je suis venue à Dubaï, j'avais des a priori. Mais c'est pas bon d'avoir des a priori. Parce que tu arrives avec une idée en tête, etc. Et ça peut être après... La manière dont tu vas vivre les choses va peut-être être faussée par rapport
ouais,
aux a priori que tu as.
Ouais, je comprends. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais des a priori, mais j'ai eu l'opportunité de faire ce voyage. Donc, vraiment. Et du coup, je me suis dit, bon, ça m'intéresse pas trop, l'Inde. Mais vas-y, j'y vais. Et je suis allée avec zéro expectation. Vraiment, je me suis dit, j'y vais, on verra. J'ai même pas fait d'itinéraire. Je me suis dit, allez, aventure, on y va.
Ah oui, là, c'est vraiment l'aventure.
Ah oui, vraiment. Bon, j'étais avec un ami au début, donc on est arrivé sur place, on a fait tout l'itinéraire ensemble. Et ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Donc après, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de ce voyage, mais si les gens veulent découvrir ce qui s'est passé en Inde, okay. ils peuvent aller sur ma chaîne YouTube. Mais vraiment, ça a été un de mes plus beaux voyages. Parce que comme j'y suis allée avec zéro expectation, en fait, j'ai été que impressionnée et que agréablement surprise. Et quand j'étais en Inde, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai voyagé un petit peu à Udaipur. Et suite à ce premier voyage, je suis retournée une deuxième fois en Inde, au Kerala cette fois-ci. Le premier, c'était dans le nord et là, c'était dans le sud. Et quand je suis allée au Kerala, on a été dans une ville donc qui s'appelle Cochin en français, je crois. Et je suis allée dans un magasin, je faisais un peu les souks, etc. Et je suis rentrée dans un magasin par hasard. Et en fait, j'ai sympathisé avec le gérant de la boutique, qui était mais genre un homme incroyable, adorable, hyper éduqué, hyper curieux. On a parlé pendant des heures et des heures. Et à la fin, il m'a dit « Bah écoute, choisis ce que tu veux dans la boutique, c'est pour moi. Vraiment, choisis ce que tu veux. » Il avait plein de trucs incroyables. Il avait des écharpes, tu sais, des pachminas en cachemire, etc. Il avait plein de bijoux. Il avait plein de très, très belles choses. Et j'ai choisi cette bague, en fait. J'ai choisi cette bague.
Tu vas voir comment elle est. C'est vrai qu'elle est très jolie. Hein.
Et j'ai oublié, donc c'est des pierres naturelles, et j'ai oublié, j'ai oublié le nom des pierres. Tu vois, j'ai vraiment, j'ai oublié, mais bon.
C'est pas le plus important.
C'est pas le plus important, mais donc c'est une bague en argent massif avec des pierres naturelles. Et j'ai choisi cette bague, en fait, tout simplement parce que cette bague, elle symbolise ce voyage en Inde. Ce voyage en Inde qui avait été aussi fait après ma rupture amoureuse, un peu comme un renouveau, un nouveau D'accord. départ, etc. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet objet, parce que ça me rappelle encore qu'une fois que faut jamais abandonner, faut jamais se laisser aller, faut toujours aller de l'avant. Tu vois, j'avais perdu un peu le goût du voyage après ma rupture, je savais pas trop quoi faire. On avait des problèmes à ce moment-là avec King Coco, on était bloqués, on pouvait pas avancer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce voyage en Inde, et j'y suis allée avec zéro expectation, et au final ça a été un des plus beaux voyages de ma vie.
Super belle
décision. Ça a été voilà, des superbes rencontres, vraiment un voyage que sincèrement j'oublierai jamais. Et quand je vois cette bague, du coup ça me rappelle ce voyage en Inde.
Waouh, bon, en tout cas c'est une très très belle histoire. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous, Amel, parce que c'est rempli d'émotions et de beaux souvenirs. Donc bon, si j'ai bien compris, l'Inde, c'est vraiment un pays que tu recommandes à 100%.
Alors, ça dépend à qui.
Ça dépend à qui. Dis-moi un petit peu les critères.
Ça dépend, en fait, ce que tu recherches en termes de voyage. Par exemple, si tu aimes les destinations, plages paradisiaques, tu veux boire des cocktails, faire la fête, etc., je ne te recommanderais pas d'aller en Inde. Je te recommanderais plutôt d'aller à Bali ou en Thaïlande ou au Sri Lanka, à la limite. L'Inde, c'est vraiment un voyage, je trouve, si tu aimes l'histoire, si tu es curieux, par rapport à l'histoire, la construction d'un pays, le passé, l'héritage en fait de ce pays, le passé colonial aussi de l'Inde. Moi en fait, ce qui m'a impressionnée, ça a été tous les palais de Maharaja. Enfin, c'était magnifique. Je m'attendais pas à ça. Même le Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est un lieu qui est rempli d'histoire, rempli d'émotions. Je sais pas. Tu vois, j'ai honte. Hein. Moi, je suis allée au Taj Mahal. Je ne connaissais pas l'histoire du Taj Mahal. Je sais pas si tu connais l'histoire du Taj Mahal.
Oui, je connais, ouais, l'histoire.
Ben, moi, j'y suis allée. Je pensais.
C'est, je crois, la plus belle déclaration d'amour d'un homme pour son épouse. Hein, franchement.
Mais moi, je pensais que c'était un palais. Le Taj Mahal, je savais pas que c'était un tombeau. Donc je suis allée et puis on visite le Taj Mahal et tout, on avait un guide et j'ai dit, ouais, c'est super beau. Je mets, ils dorment, mais où les gens? Il dit, comment ça? Tu sais, on est à l'intérieur du Taj Mahal et donc c'est une tombe. Il me dit, comment ça?
En fait, ils dorment pour toujours.
Ouais. Je dis, comment ça? Il dit, je sais pas, c'est un palais, ouais. Il me dit, mais c'est pas un palais, c'est une tombe. Et donc, tu sais, je me suis sentie idiote. Mais il y a plein de gens qui ne le savent pas.
Oui,
il y a plein de gens,
enfin. Oui.
Ouais, moi, je connaissais.
Ça pas forcément, oui.
En fait, moi, je pensais que c'était, j'ai oublié, c'est pas insultant, mais bon, c'était l'empereur, qui avait construit ça. Bon, je savais que c'était parce que c'était pour sa femme et qu'il était amoureux d'elle. Donc, je pensais qu'il avait construit un palace en son honneur. Non. Elle est morte et il a construit une tombe en son honneur. Et quand il est mort, ils ont aussi construit la tombe dans le même tombeau.
Puis c'est aussi l'architecture qui est très belle parce qu'il y a beaucoup de mix en fait.
Ouais.
Asiatique,
ottoman,
etc. Donc oui, j'imagine que ça devait être absolument exceptionnel.
Non, pour moi, c'est le plus beau monument que j'ai vu dans ma vie. J'ai vu 5 merveilles du monde et pour moi, c'est la plus belle. De celle que j'ai vue, c'est vraiment c'est vraiment un lieu incroyable. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui a été construit il y a plus de 400 ans.
Ouais.
Il y a aucune égratignure. Ça a été construit aussi de façon à ce que ça résiste aux tremblements de terre. Vraiment, l'architecture est juste impressionnante.
La signification du Taj Mahal est quand même incroyable. Je trouve ça reflète bien ton côté romantique.
Ouais.
En tout cas, merci encore, Abel, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais tu le sais, on a un petit rituel dans cette, dans ce podcast. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Donc, le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure pas très longtemps. 2 minutes, top chrono. Est-ce que tu es prête?
Je suis prête.
C'est parti. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin?
Mon lit.
Quelle est ta dernière folie financière?
Ma dernière folie financière, c'est bête, mais ça a été le stand de King Coco qui nous a coûté de l'argent pour le lancement.
Comment tu t'informes sur l'actualité?
Les réseaux sociaux.
Si tu pouvais passer une journée dans la peau de quelqu'un d'autre, tu choisirais qui?
Cher Mohamed, le chef de Dubaï.
Est-ce que tu peux partager avec nous ton compte Instagram préféré?
Non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas spécialement, non.
Et ta série préférée de tous les temps? Celle que tu adores regarder en boucle?
Je pense que Game of Thrones, c'est ma série préférée de tous les temps.
Quelle est la chose à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie?
L'amour.
Quel est ton livre préféré, celui que tu recommandes à toutes les personnes de ton entourage?
L'alchimiste.
Ta meilleure chaîne YouTube?
Amel Talks. Non, je plaisante. J'aime beaucoup Marketing Mania.
Que demandes-tu le plus souvent lorsque tu pries?
La santé pour ma famille.
À quand remonte la dernière fois où tu as pleuré?
En début d'année.
Et pourquoi?
Pourquoi? Ça devait être... j'ai dû me disputer avec ma sœur.
Oh, non. Ça arrive.
Oui, bah, c'est la dispute de sœur, ouais. Oui. C'est la dispute de sœur.
Si tu avais une semaine de 8 jours au lieu de 7, que ferais-tu de ce 8e jour?
Ah, je me reposerais.
À quand remonte la dernière fois où tu as menti à quelqu'un?
Ouh. Ah, pas long, ça devait être pour le boulot, donc ça devait être la semaine dernière.
À quand remonte la dernière fois où tu as éclaté de rire et pourquoi?
Hier, avec les copines, on a été boire un verre à la plage et on se racontait, il y avait une histoire de dating qui était hyper drôle d'une des copines et ça nous a fait rire.
Qu'est-ce qui te manque le plus de la France?
Mes parents.
Et ce qui te manque le moins?
Le climat social.
Ouais. Quel est ton plus grand regret?
De ne pas passer assez de temps avec ma famille.
Quelle est la dernière chose que tu fais avant de dormir?
Je prie.
Eh bien, merci beaucoup, Amel, d'avoir répondu à toutes mes questions, même aux questions rafales.
Ouais.
Et dis-moi, j'ai l'impression quand même que quand tu me parles de tes amis et tout, on est un peu dans cette scène de City, non?
C'est exactement
Mais
ça.
À Dubaï.
Mais à Dubaï. Mais tu sais qu'on en parlait hier et vraiment, je me disais, mais un jour, il faudrait vraiment que je trouve un truc, qu'on raconte toutes ces histoires, parce qu'il y a tellement de choses à raconter.
Mais oui.
Mais c'est vraiment ça.
Hein. C'est ça, en fait. Hein. Oui. Je vous imagine comme ça sur la plage, avec vos drinks, en train d'éclater de rire, raconter vos petites anecdotes, super bien habillée.
Mais c'était exactement ça.
C'est ça?
Non, mais c'est complètement ça. C'est complètement
j'ai bien, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment l'image que j'ai ouais. en tête.
Non, non, c'est
en
complètement
plus,
ça.
Il y a le, je crois que c'était le film adapté, ouais, de cette scène de City.
Ouais, enfin, oui, en fait, ouais, Abu Dhabi, ouais.
Abu Dhabi,
ouais. Elles sont à Abu Dhabi, ouais.
Et c'était vraiment incroyable.
Ouais. Mais c'est exactement ça. Puis tu sais, c'est toutes des filles successful, tu vois. Et on a des personnalités très différentes. On recherche pas forcément la même chose. Et,
oui, il y a des personnalités différentes.
C'est ça, c'est ça. Donc, c'est super drôle.
Mais si tu veux, moi, on peut essayer de travailler sur une série. Je connais un très bon producteur. Hein,
ouais.
qui peut faire un truc super sympa.
C'est vrai.
Ouais, ouais, ouais. Franchement.
Bah, franchement, il faut demander.
Ça partenerait.
Bon, si on devait dire la vérité, toute la vérité, c'est sûr.
Rien que la vérité.
Waouh, c'est sûr.
Rien que la vérité.
On va devoir un peu censurer.
En tout cas, merci encore une fois, Amel. Franchement, c'était un vrai plaisir de te rencontrer une nouvelle fois ici à Dubaï.
En vrai.
Là, ouais, voilà, en chair et en os. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé.
Merci à toi.
Et surtout pour ta sincérité, pour ta transparence. C'était super intéressant de discuter avec toi. Je te souhaite beaucoup de succès.
Merci
et bien sûr, tu passes le grand bonjour à ta sœur.
Ce sera fait. Bien sûr. Mais de toute façon, ma sœur, c'est ma première fan, donc ce sera la première à écouter ce podcast.
Merci encore, Amélie.
Merci à toi, Manal.
Bon, cet épisode touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous rappelle que cet entretien a été réalisé ici, au Hyatt Centric Jumeirah à Dubaï, notre partenaire pour cette série spéciale Middle East. Si vous comptez venir ici à Dubaï, n'hésitez pas à venir faire un tour. Je suis certaine que vous n'allez pas être déçus. Ciao!
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.